6h57 sur Europe 1. Très bon réveil, je vous souhaite une très bonne journée. Rendez-vous demain, dès 5h avec toute l'équipe du 5-7. Je vous laisse avec Mathieu Béliard qui démarre le 7-9. Bonjour Mathieu.
Bonjour Sébastien, Sébastien Krebs et son équipe qui vous réveille tous les jours dès 5h le matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Vous rendez compte, il a fini sa journée, il est 7h du matin. Même pas. Sébastien Krebs, très belle journée. Tiens, sur Europe 1, jeudi 14 janvier 2021, soyez les bienvenus. Vous écoutez Le Monde Changé. Et écoutez cet échange hier sur France 5, le chef cuisinier Philippe Etchebest qui interpelle le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Pourquoi on ne différencie pas les régions qui sont moins impactées que les autres ?
C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Hein.
Aujourd'hui, si je réponds à votre question, je vais faire l'annonce que je ne veux pas faire. Qu'il ne me revient pas, ça revient au Premier ministre.
J'ai essayé.
Eh bien alors, on attendra le Premier ministre. Échange amusant, la réserve du ministre qui vend presque la mèche, mais finalement non. C'est ce soir, 18h, que Jean Castex et certains de ses ministres doivent dévoiler une nouvelle série de mesures. On va en parler dans nos journaux, bien sûr. Couvre-feu, où et à quelle heure, les écoles, les protocoles, les cantines en particulier, l'évolution du variant également. À 8h15, alors que les acteurs de l'économie attendent cette nouvelle conférence de presse, Elisabeth Borne, invitée d'Europe Matin, la ministre du Travail, qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Ne manquez pas mon invité à 7h40. C'est le géographe Michel Lussault, professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Il questionne nos cadres de vie, le logement, le quartier, la ville, l'urbanisme mis à mal par la pandémie. Il appelle à repenser nos villes. Le tête-à-tête Europe Matin, 7h40, tout à l'heure. L'édito politique de Nicolas Bétou, et vous allez découvrir aujourd'hui que l'exécutif cherche à changer de sujet. Oui, le gouvernement veut parler d'autre chose aux Français que du Covid. Eh bien, on va vous parler d'autre chose aussi dans l'actualité. Beaucoup d'économies avec ce groupe canadien qui lorgne sur Carrefour. Bercy s'oppose à ce rachat. Est-ce que Carrefour, c'est une entreprise stratégique ? L'éclairage éco, Nicolas Barré dans moins d'un quart d'heure. Autre fleuron français, le groupe Renault dont les ventes étaient en chute libre l'an dernier. Comment le groupe compte relancer sa marque ? Ses marques, dossier Europe 1 ce matin. Et puis un autre dossier que nous ouvrons dans un instant avec la douloureuse question de l'inceste, la déflagration après les révélations de Camille Kouchner, Olivier Duhamel et son entourage, mais aussi et surtout l'effet que constatent les associations. On parle de libération de la parole parce que oui, on en parle dans les familles, bien sûr. On en parle sur Europe 1, c'est dans le journal à suivre. Voilà quelques éléments du programme aujourd'hui. 6h59 sur Europe 1, il ne me reste qu'à saluer Laurent Cabrol. C'est l'heure de la météo. Bonjour Laurent.
Salut Mathieu. Rebonjour à tous. Elle est curieuse, notre neige. Notre neige, elle doit être sur la frontière. Frontière franco-belge, franco-luxembourgeoise, franco-belge-luxembourgeoise et allemande. Et figurez-vous qu'elle ne passe pas. Elle ne passe pas la frontière. Elle reste mais vraiment à quelques mètres. On dirait que les douaniers l'empêchent de passer. Donc il neige pas côté français, mais il neige côté étranger, si je puis dire. Et la neige, quand même, viendra chez nous dans le courant de l'après-midi. Elle est accompagnée de pluies fortes quand il ne neige pas. Ce sont des pluies soutenues sur la Picardie, le Nord, la Champagne, la Bourgogne, le Dijonais, les Alpes du Nord. Et puis, nous avons des pluies un peu plus modérées. Nous en aurons, et nous en avons déjà souvent. Région parisienne, Normandie, Val-de-Loire, le Massif central, sauf à partir de 800 mètres où il neige, le Poitou-Charente. Cet après-midi, amélioration en Bretagne, Basse-Normandie et Loire-Atlantique. En Méditerranée, du soleil et du vent. Je vous ai presque tout dit. J'ajoute quelques températures qui restent encore relativement douces, entre 3 et 8 degrés sur la moitié nord, ou entre 3 et 10, et entre 12 et 15 sur les régions de la moitié sud. Voilà pour une météo pas folichonne du tout.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Installez-vous à l'écoute d'Europe 1. On écoute Le Monde Changer. Il est 7h.
Moi, j'ai eu à me taire pendant des années, pendant 30 ans de silence. Maintenant, je trouve que le silence, il est pour lui.
Son livre est un séisme. Camille Kouchner s'exprimait hier pour la première fois à la télévision depuis la parution de ce livre. La parole se libère donc sur l'inceste. Les associations reçoivent beaucoup plus d'appels depuis ces révélations. C'est l'enquête Europe 1 ce matin et ce sera dès le début de ce journal. A priori, pas de reconfinement, mais un couvre-feu avancé à 18h dans toute la France. Nouvelle prise de parole de Jean Castex en fin de journée. Elle était depuis toujours la compagne de route de François Bayrou. La députée et vice-présidente du Modem, Marielle de Sarnez, est décédée hier soir. Vote historique aux États-Unis, Donald Trump est mis en accusation pour la deuxième fois. C'est la fameuse procédure d'impeachment qui pourrait l'empêcher de briguer un second mandat. Et puis la Terre a tourné plus vite en 2020. On va vous expliquer pourquoi.
Juste après ce journal, le géant Carrefour convoité par un groupe canadien. Bruno Le Maire a-t-il raison de s'opposer à un rachat ? L'éclairage éco, Nicolas Barré. La Corée du Nord attend Joe Biden de pied ferme. Le regard international de Vincent Hervouet. L'édito sport, Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern. Pour notre rendez-vous d'histoire, très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On avait découvert son visage, on connaît maintenant sa voix. Camille Kouchner, dont le livre La Familia Grande vient d'être tiré à 225 000 exemplaires, était l'invitée de l'émission La Grande Librairie hier soir sur France 5. Elle ne pardonne pas à son beau-père Olivier Duhamel d'avoir violé son frère jumeau, comme elle le raconte dans ce livre. Une prise de parole après 30 ans de silence.
Moi, je n'ai pas désigné les choses suffisamment tôt. Je le fais aujourd'hui, mais bon. Et en effet, ne pas désigner, c'est participer. Mais c'est l'emprise, ça. Il n'y a aucun moment où j'ai eu l'impression que je pouvais le faire. Et même quand ma tante m'a dit « mais il faut que tu parles, parle, parle », je me sentais encore complètement coincée, alors qu'elle était là, elle était déterminée, puissante, et elle m'offrait de la protection, elle était là, avec moi, quoi. Mais même là, je n'ai pas réussi. Moi, ce sont toutes mes lectures qui m'ont aidée. Donc voilà, j'aimerais bien que ce livre fasse la même chose.
Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour.
On vient d'entendre Camille Kouchner qui espère que son livre aidera d'autres victimes. Vous avez mené l'enquête pour Europe 1, Hélène, et il s'avère que cette affaire a bien créé un déclic. Les associations de lutte contre l'inceste sont beaucoup plus sollicitées qu'avant.
Oui, je les ai contactées une par une et c'est flagrant. La plupart me répondent qu'il y a un pic d'appels depuis une dizaine de jours. Les demandes d'aide doublent, parfois multipliées par 4, par 5. La directrice de SOS Inceste, Cathy Millard, explique que les appelants font souvent directement référence à l'affaire Duhamel et elle voit émerger des profils nouveaux.
Il y a eu une conséquence en particulier pour les personnes qui ont été agressées dans un milieu extrêmement aisé. Aussi, des personnes dont le statut de l'agresseur est un niveau assez important. Donc évidemment, le fait que là, c'est un homme public, les personnes se disent, ben voilà, moi je vais pouvoir aussi témoigner.
Et elle insiste, c'est la preuve que l'inceste existe dans tous les milieux. Les victimes qui appellent restent en tout cas essentiellement des femmes, qui se manifestent souvent après avoir eu des enfants. Pour la psychiatre Muriel Salmona, l'accueil du livre de Camille Kouchner par l'opinion publique les rassure et les incite à parler.
Ça les rend beaucoup plus légitimes. Parce qu'ils ont l'impression qu'on peut beaucoup plus prendre en compte ce qui leur est arrivé, puisque Camille Kouchner, on met très peu en cause sa parole, ils sont plus confrontés avec une loi du silence qui les bâillonnait complètement. Donc là, ils se sentent beaucoup plus en confiance pour parler.
Cet élan, les associations espèrent qu'il contribuera à briser pour de bon le tabou de l'inceste.
Voilà, merci Hélène Terzian, on vous a entendu, des appels multipliés par 4 ou 5 dans les associations. Et conséquence de cette affaire, l'ex-ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, a démissionné de son poste de présidente de la commission sur l'inceste. Elle était contestée en raison de sa proximité avec Olivier Duhamel.
7h04 sur Europe 1. Ce soir encore, nous serons des millions suspendus aux annonces de Jean Castex et de 6 de ses ministres.
Oui, conférence de presse à 18h alors que plus de 23 000 contaminations ont été enregistrées en une journée et que la pression ne faiblit pas dans les hôpitaux. Alors quelles sont les mesures envisagées? Réponse avec Adrien Peck.
Le gouvernement redoutait une tempête après les fêtes. Elle s'éloigne, au moins momentanément. L'accélération des contaminations n'a pas eu lieu, constate un conseiller. Une solution d'entre-deux, un couvre-feu national à 18h, est donc l'hypothèse la plus probable. On évoque aussi des annonces concernant les cantines scolaires, lieux à risque de contamination. En fait, l'exécutif essaie d'adopter des mesures préventives, tant la situation peut basculer rapidement. Le plateau reste très élevé, aussi l'incertitude quant aux différents variants. Voilà pourquoi on évoque également des mesures de limitation des flux avec la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud. Exercice d'équilibriste, d'autant que revient la crainte d'une moindre acceptation des mesures, alors que la situation semble stable. Stabilité bien précaire, devrait mettre en garde Jean Castex ce soir. La dernière fois qu'un couvre-feu a été mis en place à grande échelle, à l'automne, il n'avait duré que 7 jours, avant d'être remplacé par un confinement.
Adrien Beck et les cantines scolaires, on va y revenir dans le journal de 7h30. À propos des nouveaux variants du Covid, anglais, sud-africain, mais aussi brésilien, l'OMS se réunit en urgence aujourd'hui pour en discuter. Une équipe de l'Organisation mondiale de la santé doit également commencer sa mission en Chine, un pays qui vient de connaître son premier mort du Covid depuis 8 mois.
Et on va vous expliquer en détail cette problématique des variants, comment ils sont observés, tracés eux-mêmes, ces virus variants, c'est dans le journal de 8h tout à l'heure. On l'a appris tard dans la soirée, Marielle de Sarnez est décédée à 69 ans, des suites d'une leucémie.
Oui, la députée et ancienne ministre centriste était particulièrement proche de François Bayrou. C'est d'ailleurs le président du Modem qui a annoncé la nouvelle. Aurélie Herbemont.
Elle a été la partenaire de tous les combats de François Bayrou, celle avec qui il a toujours échafaudé ses stratégies. Marielle de Sarnez, la boussole politique, l'alter ego du leader centriste, avec qui il a partagé les moments fastes et les traversées du désert. Celle sans qui il n'aurait jamais refusé de soutenir Nicolas Sarkozy en 2012, une première dans l'histoire du centre, toujours allié à la droite. Sans son soutien, il n'aurait jamais rallié non plus Emmanuel Macron en 2017 et renoncé à sa propre ambition présidentielle. Au Modem, beaucoup l'ont toujours dit, Marielle c'est François et François c'est Marielle. Élue à Paris depuis 2001 sous les couleurs de l'UDF puis du Modem, elle a aussi été eurodéputée avant de devenir ministre des Affaires européennes en 2017 pendant que François Bayrou était ministre de la Justice. Tous deux ont dû quitter le gouvernement au bout d'un mois et quatre jours à cause de l'affaire des assistants parlementaires du Modem. « Notre chagrin est immense », dit François Bayrou, un de ses proches confie. Une part de lui-même est partie.
Et à l'annonce de ce décès, l'Assemblée nationale a respecté une minute de silence. Très grande émotion dans toute la sphère politique. La France perd une responsable politique de grand talent, dit Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon rend également hommage à une adversaire exemplaire de loyauté. Marine Le Pen a une présidente de commission attentive à tous les députés.
C'est un vote historique qui s'est tenu aux États-Unis. Donald Trump est le premier président américain à être mis en accusation deux fois. Le fameux impeachment, la Chambre des représentants, dirigée par la démocrate Nancy Pelosi, a voté pour.
Aujourd'hui, la Chambre a démontré que personne n'est au-dessus de la loi, pas même le président des États-Unis. Que Donald Trump est un danger évident et immédiat pour notre pays. Et qu'une fois de plus, nous honorons ce serment de protéger et de défendre la Constitution des États-Unis.
Nancy Pelosi. Donald Trump aura donc droit à un second procès au Sénat. Impossible qu'il se tienne avant la passation de pouvoir avec Joe Biden le 20 janvier. Mais ce qui se joue, c'est l'interdiction de briguer un autre mandat.
Donald Trump qui a publié une vidéo dans la soirée sans dire un mot du vote qui venait de se tenir à la Chambre des représentants, il a lancé un message d'unité et d'apaisement.
Aujourd'hui, j'appelle tous les Américains à surmonter les passions du moment et à s'unir en un seul peuple américain. Choisissons d'aller de l'avant, unis pour le bien de nos familles, de nos communautés et de notre pays.
En tout cas, Washington est placé sous très haute sécurité. Des blocs de béton bloquent les principaux axes du centre-ville. D'immenses grilles protègent les bâtiments fédéraux et des centaines de militaires ont passé la nuit à l'intérieur du Congrès. Ils seront 20 000 pour la cérémonie d'investiture la semaine prochaine.
Et pendant ce temps-là, la Terre tourne. Alors, vous allez me dire, c'est normal tous les jours? Non, la Terre tourne, mais de plus en plus vite.
Oui, on peut même dire que notre planète n'avait jamais tourné aussi vite en un demi-siècle. En 2020, le record du jour le plus court a été battu plusieurs fois. Voilà qui mérite quelques explications, Laure d'Autriche.
Oui, en 2020, notre planète a tourné un peu plus vite sur son axe et cela devrait être encore plus net cette année. Bon, on ne parle pas là de plusieurs minutes, seulement de quelques millisecondes, et ce sont les horloges atomiques qui ont permis aux scientifiques d'enregistrer cela. 2020 a connu 28 jours qui sont les plus rapides jamais enregistrés depuis 1930. Pourquoi ces variations ? À cause des marées qui déforment les océans et la Terre, à cause aussi de la vitesse des vents, ou encore de l'érosion des montagnes. Si la Terre tourne plus vite, pour notre vie quotidienne, cela ne change pas grand-chose, mais pour les satellites ou les réseaux de télécommunications qui reposent sur une synchronisation précise, cela peut poser des problèmes. Et d'ailleurs, ces dernières années, c'était l'inverse. La Terre tournait moins vite. En 2016, les horloges du monde entier s'étaient même arrêtées pendant une seconde pour permettre à la rotation de la Terre de rattraper son retard.
Laure d'Autriche. Et du côté du ballon rond qui tourne, lui aussi un nouveau titre pour le PSG. Les Parisiens décrochent leur 10e trophée des champions après leur victoire hier soir contre Marseille sous une pluie battante. Score final 2-1. Ça se passait au stade Bollaert de Lens.
Merci beaucoup Hélène Zellani. Tiens Hélène, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous avez des bitcoins?
Pas du tout.
Non, vous n'avez pas cédé à cette folie des monnaies, des crypto-monnaies, des monnaies virtuelles. Eh bien, cette histoire rapportée par le New York Times, alors vous savez, le cours de la crypto-monnaie, du bitcoin, s'est envolé. Un bitcoin peut valoir jusqu'à 30 000 dollars, 25 000 euros. Mais il y a des petits malins qui ont acheté des bitcoins à une époque où ça coûtait vraiment pas cher. Je pense par exemple à cet Américain qui s'appelle Stéphane, qui a acheté 7 000 bitcoins il y a quelques années. Virtuellement, il possède 220 millions de dollars. Sauf qu'il a oublié son mot de passe. C'est ballot. Et on a le droit à 10 tentatives. 10 tentatives et 10 erreurs maximum. Il s'est déjà trompé 8 fois. Il n'ose plus du tout y toucher. Il a l'équivalent de 220 millions de dollars en bitcoin, 183 millions d'euros qui dorment tranquillement et qu'il ne peut pas récupérer. Il y a 20% des bitcoins qui ne seraient plus accessibles à leurs propriétaires. Ça représente 116 milliards de dollars. Cet argent comme ça dans le virtuel, disparu. Je voulais vous raconter cette histoire. Dites-vous qu'il y a des gens qui sont très très riches, beaucoup plus riches que vous, mais qui ne peuvent pas toucher à leur argent. Merci Hélène, c'était le journal de 7h. 7h11 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Mathieu Béliard.
Vous restez avec nous. La crise que nous traversons depuis un an questionne nos modes de vie. Encore ce soir, on attend de nouvelles restrictions. Ouverture, fermeture, liberté de circulation. On en parle et on se projette avec un géographe ce matin. Pensez nos logements, pensez la ville, les transports, les quartiers. Michel Dussault de l'École normale supérieure de Lyon et de l'École urbaine de Lyon. C'est le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Mais tout de suite, le groupe Carrefour, convoité par des Canadiens, Bruno Le Maire s'y oppose.
Ce qui est en jeu, c'est la souveraineté alimentaire des Français. L'idée que Carrefour puisse être racheté par un concurrent étranger, a priori, je ne suis pas favorable à cette opération.
À Bercy, a-t-on raison de s'opposer au rachat de Carrefour par un groupe étranger ? L'éclairage éco, Nicolas Barré, dans une minute. Bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h13 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est non, on vient de l'entendre. L'État a dit non au rachat de Carrefour par un groupe québécois. Il fallait s'y attendre.
Ah, c'était le risque, oui. Vous savez, on est en France, hein, ne serait-ce que parce que Carrefour est le premier employeur privé français présent sur tout le territoire. Donc il y a un côté symbolique. Et Bruno Le Maire, qui est monté au créneau hier soir contre ce rachat, on vient de l'entendre, a aussi rappelé le rôle de Carrefour pendant cette année de pandémie, la mobilisation du personnel, son engagement auprès de la filière agroalimentaire. Donc oui, il fallait s'y attendre.
Alors, Carrefour, premier employeur privé en France, je le note. Est-ce que cette réaction, Nicolas, est légitime ?
Eh bien, c'est la bonne question. Et là, on peut vraiment s'interroger. D'abord, il y a d'autres distributeurs en France, comme Lidl, qui sont un capitaux étranger, allemand en l'occurrence, et ça ne dérange personne. Ils ont été tout autant mobilisés pendant la pandémie que les employés de Carrefour, Auchan ou Casino. Et ce n'est pas la nationalité d'un distributeur qui va mettre en péril la souveraineté alimentaire des Français. Pendant la crise du Covid, des millions de Français ont aussi beaucoup acheté sur Amazon, qui commençait à être américain. Bref, qu'un distributeur soit détenu par des capitaux français ou étrangers ne change pas le service qu'il rend, que les actionnaires de Carrefour soient français ou québécois, ne change rien non plus au fait que ces activités, de toute façon, ne sont pas délocalisables. Le Québécois qui aurait racheté Carrefour n'aurait pas déménagé ses magasins au Québec.
Non, non. La nationalité d'une entreprise, Nicolas, n'est tout de même pas complètement neutre, surtout si les centres de décision s'en vont à des milliers de kilomètres.
Oui, mais alors écoutez, dans un monde ouvert, il faut choisir ses combats. Carrefour ne fabrique pas des sous-marins nucléaires. Je veux dire par là qu'il y a un distinguo à faire quand même entre des industries de souveraineté et le reste. D'autre part, l'intérêt de nos entreprises, c'est aussi de pouvoir racheter des concurrents étrangers. Alstom a quand même racheté tout récemment la division transport, les locomotives du Québécois Bombardier, et Airbus a acquis une partie de ses activités aéronautiques, pour ne citer que ces deux exemples. Chaque année, le gouvernement invite aussi à Versailles les dirigeants des plus grands groupes étrangers pour qu'ils investissent en France. En clair, l'intervention de l'État dans ce type de dossier peut très vite se révéler à double tranchant et renvoyer une image négative, celle d'un pays fermé, protectionniste, avec à sa tête un État dirigiste qui s'immisce dans la vie des affaires, même lorsqu'il n'est pas actionnaire comme chez Carrefour.
Merci Nicolas Barré. On va en reparler dans le journal de 8h tout à l'heure. 7h16 sur Europe 1. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu. Bonjour Nicolas. C'était bien.
Oh, tous les jours, je voudrais une petite évaluation comme ça. Il n'y a pas que Washington qui soit sur le pied de guerre pour préparer l'investiture de Joe Biden. La Corée du Nord aussi.
Oui, la Corée du Nord qui va renforcer son arsenal nucléaire pour combattre l'ennemi numéro un de la révolution, les États-Unis. Discours provocant de Kim Jong-un en clôture du congrès du parti qui a duré 8 jours pleins. C'est un record et il faut imaginer l'endurance des apparatchiks qui supportent stoïque cette logorée. Kim rêve à voix haute de sous-marins nucléaires, de satellites tueurs, de missiles balistiques hypersoniques. Toute une panoplie d'apocalypse. Les Nord-Coréens sont au bord de la famine. Ils ont, mais il faut les prendre au sérieux parce qu'ils ont déjà fabriqué la bombe et puis aussi le plus gros missile à combustible liquide qu'on ait jamais vu dans un défilé militaire. Et Kim insiste, Joe Biden est un chien enragé qu'il faut combattre à mort avec un bâton, un gros bâton. Le voilà prévenu, le nouveau secrétaire général du parti, le défie.
Kim Jong-un n'est plus président.
Non, Il avait été nommé il y a 5 ans, c'est fini. Il sera resté président à peine plus longtemps que Donald Trump. La fausse symétrie aura permis à la Corée du Nord de dialoguer avec les États-Unis sur un pied d'égalité, d'être reconnu de facto comme une puissance nucléaire. Le tyran, fils de tyran, petit-fils de tyran, a été traité comme un interlocuteur respectable. Abandonner le titre, lui préférer celui de secrétaire général du parti, comme son père, comme Staline, c'est tourner la page. Fin de l'étrange balai entre les deux présidents, le petit et le gros, que le monde stupéfait avait suivi incrédule avec les insultes, les menaces, puis le coup de foudre, puis les lettres pleines de superlatifs et puis finalement, deux sommets stériles. Les feux de l'amour n'ont pas résisté au calcul froid de la géopolitique.
À quoi doit s'attendre Joe Biden ?
À des chantages, à des provocations. Pyongyang ne se laissera plus oublier. Les Nord-Coréens veulent l'allègement des sanctions. Kim Jong-un a reconnu son échec économique. Le pays est pris à la gorge. Au dernier jour de l'administration Trump, on voit comme ça, ceux qui mettent les bouchées doubles, les Israéliens, ont ainsi mené hier le raid le plus meurtrier depuis le début de la guerre en Syrie, tuant une 60aine de gardiens de la révolution iranien. Et puis il y a les Nord-Coréens qui, eux, préparent le comité d'accueil pour Joe Biden.
Merci beaucoup Vincent Hervouet. Quel comité d'accueil, on va suivre ça de très près avec vous, le regard international tous les matins sur Europe 1. 7h18, tout de suite Kylian Mbappé en méforme sur les terrains, on l'a vu hier soir contre l'Olympique de Marseille, que le PSG lui accorde des vacances. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport avec Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le PSG a remporté hier soir le trophée des champions en battant l'Olympique de Marseille 2-1. Un premier trophée pour le nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Mais il y a quand même un problème dans les rangs parisiens. Kylian Mbappé semble perdu sur le terrain. Et pour vous Virginie, il faut absolument que le joueur fasse une pause. Parce que là, on ne le reconnaît plus.
Oui, laissez-le se reposer, ce garçon, quand même. Il est l'ombre de lui-même depuis des semaines maintenant. Et visiblement, la trêve internationale de Noël n'a pas suffi à le remettre sur pied. Quand je le vois sur le terrain, en ce moment, on dirait un ado qui traîne son spleen pour sortir de sa chambre. Vous savez, celui qui, il y a quelques mois encore, était un enfant plein de vie et de malice et qui maintenant répond par monosyllabes et n'a plus envie de rien. Oui, oui, vous voyez de quoi je parle.
Comme beaucoup d'auditeurs ont monté le son. Écoute, elle parle de toi, la dame.
Oui,
ah non, il dort encore déjà.
Ouais, voilà, c'est ça. Problème. Kylian Mbappé dort peut-être encore aussi. Il est perdu sur le terrain, on l'a encore vu hier soir contre l'OM, il ne sait plus quoi faire à part la tête. C'est simple, il est tellement au bout du rouleau qu'il a des réactions d'automate. On lui passe la balle et hop, directement il fait un passement de jambe raté. Forcément, ça ne surprend plus personne. J'ai même l'impression qu'il va moins vite qu'avant. Tout ça à cause de la lassitude. Une fatigue physique et morale qui lui fait rater beaucoup de choses. Ça entraîne de la frustration et donc de l'énervement. Et ce n'est pas en continuant de le faire jouer comme si de rien n'était qu'on va briser ce cercle vicieux. Si on veut retrouver le Kylian Mbappé d'antan, il faut le mettre au repos.
Alors, ce n'est pas si simple de mettre de côté un joueur comme Kylian Mbappé.
C'est là qu'on pourrait voir si Mauricio Pochettino, le nouvel entraîneur du PSG, sait s'imposer dans le vestiaire. C'est vrai que ce n'est pas évident de mettre de côté une star comme Kylian Mbappé, mais ça rendrait service à tout le monde, à l'équipe d'abord. Honnêtement, le Kylian Mbappé qu'on voit ces dernières semaines ne sert pas à grand-chose au PSG en ce moment. Et puis aux joueurs aussi, évidemment. Compétiteur comme il est, vous croyez vraiment qu'il est heureux de ses prestations ? Son visage trahit sa frustration. Et puis ça arrêterait aussi la machine à fantasme, vous savez, les phrases qu'on entend sur le fait que Mbappé n'a plus la tête au PSG, qu'il veut quitter le club et que c'est pour ça qu'il déjoue depuis des semaines. Je sais pas, moi, si l'attaquant quittera Paris ou pas à la fin de la saison, mais on parle d'un joueur professionnel qui, en plus, a un euro en ligne de mire avec les Bleus. Vous pensez vraiment qu'il se désengagerait comme ça ? Ben non, il est crevé, surtout. Et si on veut revoir le joueur qu'on admirait tant, ben il n'y a qu'une solution. Kylian, fais les valises. En vacances.
J'adore cet édito. Il faut des vacances pour Kylian Mbappé. On pourrait lancer une pétition même, ou un hashtag des vacances pour Kylian, pour le retrouver comme on le connaissait sur les terrains.
Sans cagnotte.
Vous avez utilisé le mot d'antan. Antan, vous vous rappelez 2019, 2020, cette époque si lointaine. Merci Virginie Fulpin. Il est 7h24 sur Europe 1, l'heure de retrouver Stéphane Bern pour un mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Mathieu, comme moi, je le sais, je le devine, vous avez de l'humour et vous aimez rire. J'imagine assez facilement que des personnes de votre entourage ont pu parfois être vexées par vos plaisanteries et vos facéties et donc prendre la mouche. Mais d'où vient cette expression, prendre la mouche ?
En tout cas, s'ils ont pris la mouche, j'espère qu'ils l'ont rendue.
Et en plus, on a le même humour. Oh, c'est un régal matinal. Au XVIIe siècle, il faut savoir que la mouche désigne tout ce qui vole et ressemble grosso modo à un insecte. On parle de la mouche au bœuf pour désigner le temps. L'abeille était appelée mouche à miel et la tique, c'était la mouche à chien. En fait, l'explication de l'expression est simplissime. À la campagne, on voyait bien les animaux énervés par une mouche et se cabrer alors que nous, pauvres humains, nous ne l'avions même pas remarqué. Cette soudaine colère a donné naissance à prendre la mouche. Elle a aussi donné l'expression « mais quelle mouche l'a piqué ?» Alors qu'au début du XVIIIe siècle, le naturaliste français Georges-Louis Leclerc de Buffon déclare « une mouche ne doit pas tenir dans la tête d'un naturaliste plus de place qu'elle n'en tient dans la nature », avec le temps, on a su reconnaître à l'insecte de grandes qualités. Habile aux armes, on devenait une fine mouche. Quand on tirait bien, on faisait mouche. Et les navires très maniables devenaient des bateaux mouches. Terminons par un faux proverbe chinois inventé par l'ami Philippe Geluck. Quand on est une mouche, on a souvent des amis dans le besoin.
16h tout à l'heure, c'est historiquement vôtre avec Mathieu Noël.
Absolument, aujourd'hui, 22 v'là les flics. On réunit trois grands noms de la police. Alphonse Bertillon, le père de la police scientifique. Roger Borniche, spécialisé dans le grand banditisme. Et Olivier Marchal, l'ancien flic devenu comédien et réalisateur, il sera avec nous en studio à l'occasion de la diffusion de la mini-série La Promesse ce soir sur TF1. Bref, on vous raconte l'histoire les mains en l'air avec Mathieu Noël, 16h-18h sur Europe 1.
Pas un geste, à tout à l'heure, 16h. 7h26 sur Europe 1, Laurent Cabrol pour la météo dans quelques secondes avant un nouveau journal avec Sophie Echen. À tout de suite. Il est 7h28 sur Europe 1 et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Alors, avec un nouveau découpage, j'essaye d'être plus clair, parce que c'est pas facile. Prudence pour tous ceux d'entre vous qui habitent la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, le Nord, les Ardennes, pour neige et verglas. Les Alpes du Nord également, prudence, y compris en plaine. L'air froid résiste dans ces régions, ce sont des régions à haut danger. Il fait en ce moment 0 à Longwy par exemple, 0 à Guenot, 1 degré à Strasbourg et 2 degrés à Lille. Partout, pluie ou neige vont alterner ou se mêler. Voilà pour la prudence. Ailleurs, c'est de la pluie. Ras-le-bol, mais enfin, c'est comme ça. Et un temps pas folichon. En Bourgogne, Haute-Normandie, région parisienne, de la pluie, Val-de-Loire, les plaines du Massif central, le Poitou-Charente et le centre. Ah, une amélioration. Sur la Bretagne, le Cotentin, la Loire-Atlantique, l'Ariège. Amélioration cet après-midi. Bassin méditerranéen, soleil et vent. Et puis, une aggravation sur la Gironde et le Pays Basque avec de la pluie en deuxième partie de journée au moment du goûter. Les températures maximales, 8 à Albi. Cet après-midi, alors j'évite celle où il fait froid, hein, le nord. 8 à Albi, c'est la plupart des régions sont dans cette fourchette-là. 9 à Perpignan, 10 degrés à Dijon, 11 à La Rochelle, 12 à Caen et Rennes, 14 à Nice, 15 à Bastia, Paris, 11. Voilà.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, hein, il est 7h30.
Il faut faire un effort dans les cantines, au moment où les enfants mangent, parce qu'il y a une transmission. Sur le plan logistique, on peut faire des choses pour essayer d'améliorer et d'éviter ou diminuer la probabilité de transmission.
Voilà ce que disait hier matin sur Europe 1 le professeur Yazdan Yazdanpana. Et bien ce soir, le gouvernement pourrait annoncer la distribution de pique-niques en classe pour les élèves. Dans ce journal, l'appel au gouvernement de ce boulanger de Besançon en grève de la faim depuis une dizaine de jours pour s'opposer à l'expulsion de son apprenti guinéen. Et puis vous vous rappelez du Lotus Bleu, c'est l'album de Tintin le plus connu au monde. Eh bien, la couverture qu'Hergé avait initialement prévue et qui n'a jamais été imprimée sera vendue aujourd'hui aux enchères à Paris. Elle pourrait dépasser les 2 millions d'euros.
La pandémie révèle les faiblesses de nos villes, de nos modèles urbains. Juste après ce journal, le géographe Michel Lussault, auteur de Chroniques de Géoviral, invité du tête-à-tête Europe Matin, c'est dans 10 minutes. L'exécutif cherche à nous parler d'autre chose que du Covid. C'est l'édito politique de Nicolas Bétou. Juste avant, Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité de la matinale. Aujourd'hui, Elisabeth Borne, ministre du Travail, au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le gouvernement annoncera ce soir ses nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. L'option la plus probable, c'est la généralisation du couvre-feu à 18h sur tout le territoire. L'hypothèse d'un confinement le week-end n'est pas exclue. Des annonces aussi sur le protocole sanitaire appliqué dans les écoles.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Pas de décision drastique à ce stade, mais le gouvernement prévoit des mesures ciblées.
Oui, pour régler déjà le problème numéro un, qui est celui des repas. C'est le moment le plus à risque, hein, puisque c'est là que les élèves enlèvent leur masque. La solution qui se dessine, c'est de distribuer des pique-niques en classe, pique-niques fournis par les établissements. Problème, ça nécessite du personnel supplémentaire. Et ça, les collectivités locales affirment qu'elles n'en ont pas les moyens et qu'elles ont déjà réduit les temps de repas avec des plats plus faciles à servir, plus rapides à manger. Du côté du SNUIPP, le syndicat du primaire, là, on insiste sur la nécessité d'avoir des repas chauds plutôt que froid, surtout en cette saison. Autre proposition du ministère sur la table, l'arrêt du sport en intérieur, en gymnase, un moment où les élèves sont sans masque. Enfin, au collège et uniquement pour les 4e et les 3e, le scénario d'un passage à l'enseignement hybride, c'est-à-dire moitié en présentiel, moitié à distance, se rapproche. Scénario déjà en place dans 7 lycées sur 10 et qui va être maintenu. Voilà pour les éventuelles mesures de prévention. Sur le volet sanitaire, là, une certitude. La nouvelle règle sera de tester systématiquement les élèves et les profs dès qu'il y a un cas positif, avec une équipe mobile sur place. Mais pour que ce soit efficace, il faut qu'il y ait plus de volontaires. Le gouvernement lance dès lundi une campagne de communication pour inciter à se faire tester.
Virginie Riva, la campagne de vaccination s'intensifie. Plus de 247 000 personnes ont reçu une première dose, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. C'est 60 000 de plus que la veille. La disparition de Marielle de Sarnez, députée centriste et bras droit de François Bayrou, elle est décédée des suites d'une leucémie à 69 ans. Emmanuel Macron lui a rendu hommage, affirmant que la France perd une responsable politique de grand talent.
Il entame son 11e jour de grève de la faim. À Besançon, un boulanger proteste contre l'expulsion de son apprenti guinéen.
Il y a deux jours, Stéphane Ravaclet a même été hospitalisé à cause de son état, mais cela ne l'arrêtera pas. Il continue le combat et lance un appel à la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui sera sur Europe 1 tout à l'heure.
J'ai fait une promesse à l'ail, je me tiens d'aller jusqu'au bout. La grève de la faim va marquer mon corps. Mon entourage a très peur. Moi, j'ai peur de rien. Alors, je suis pas un extrémiste. Hein. Je ne fais que protéger une personne qui est venue en France. À 16 ans, il est arrivé mineur isolé. Ils l'ont pris sous leur aile. Et à 18 ans, il découvre qu'il n'a pas de papier. Donc, c'est une belle hypocrisie. On lui a donné un rêve, c'est-à-dire, on fera attention à toi, on va te trouver un métier. Et en fait, à 18 ans, ton rêve, on le détruit. Donc, on va pas s'arrêter là. Non, ça, c'est certain. Et je suis en train de voir avec des députés pour promulguer une loi pour protéger ces gamins jusqu'à leur obtention de diplôme.
Est-ce que vous avez un message pour Elisabeth Borne ?
J'aimerais lui dire que l'État est aveugle et sourd et que j'aimerais en fait qu'il perde ses deux cécités pour qu'on revienne à un moment de lucidité.
Témoignage recueilli par Yasmina Katou, Elisabeth Borne qui sera l'invitée de Sonia Mabrouk à 8h15 sur Europe 1. Personne n'est au-dessus de la loi. Les mots de Nancy Pelosi, présidente démocrate de la Chambre des représentants aux États-Unis, alors que Donald Trump a été mis en accusation hier au Congrès. Seconde procédure de destitution pour le président sortant à une semaine de la fin de son mandat. C'est une première historique.
C'est une vente aux enchères qui va faire rêver tous les fans de Tintin. Celle de la couverture originale du Lotus Bleu. C'est aujourd'hui à Paris.
Et le Lotus Bleu, c'est l'album le plus vendu dans le monde. On visualise tous sa couverture. Tintin, en tenue traditionnelle chinoise, caché dans une jarre face à un grand dragon noir. Bonjour Diane Chenouda.
Bonjour, bonjour à tous.
Et ce dessin sera mis en vente cet après-midi chez Art Curiel.
Oui, alors ce n'est pas un simple dessin. C'est une très belle gouache et encre de Chine réalisée par Hergé en 1936 pour la couverture initiale du Lotus Bleu. Mais ce n'est pas ce dessin sur fond noir qui a finalement été retenu, car il était trop cher à reproduire en quadrichromie. Du coup, il est resté dans les tiroirs. Hergé l'aurait donné en cadeau au fils du patron des éditions Casterman quand il avait 7 ans. Et ce sont ses héritiers qui le vendent aujourd'hui pour le plus grand bonheur d'Éric Leroy, spécialiste bande dessinée de la maison Art Curiel.
Moi, ça fait 30 ans que je pistais ce dessin. J'avais demandé à Jean-Paul Casterman, est-ce que vous voulez vendre ce dessin ? Et il m'avait dit, c'est un cadeau d'Hergé quand j'étais enfant, j'y tiens énormément. Et donc, jusqu'à sa mort, il a gardé ce dessin précieusement.
Chef-d'œuvre estimé entre 2 et 3 millions d'euros et qui pourrait battre le record de vente en bande dessinée. Record déjà détenu par Hergé en 2014, avec un lot de pages de garde qui était parti à 2,5 millions d'euros.
Pourquoi est-ce que ces planches de bande dessinée s'envolent depuis quelques années ?
Bah écoutez, ça fait une quinzaine d'années. Ça a commencé avec Bilal, qui a vendu une de ses planches plus de 370 000 euros. Ce sont des passionnés, souvent quinquagénaires et nostalgiques. Mais à ce niveau de prix, ce sont aussi de plus en plus des investisseurs.
Diane Chenouda du service culture d'Europe 1. Et puis vous vous êtes peut-être déjà demandé l'utilité de l'application Boussole de votre téléphone, des oignons dans le bocal de cornichons ou encore du point virgule. Et bah c'est le sujet de cette nouvelle chanson de Julien Doré.
Sa majorité sur un site porno. Les potages à la machine à café. Et surtout, surtout, les chanteurs qui prennent une voix possédée pour faire des chansons sur des crustacés.
Beaucoup d'autodérision chez Julien Doré.
Il y a des réponses à ces questions sur l'application Boussole ou les oignons dans le bocal.
D'écouter cette chanson, Julien Doré, en collaboration avec les deux youtubeurs McFly et Carlito, est déjà plus de 2 millions de vues en seulement 2 jours, quand même. Hein.
À quoi ça sert ? Ces choses sont-elles nécessaires ? Qui utilise ça vraiment ? Répondez sans bégaiement.
Merci beaucoup, Sophie et Chen. On termine ce journal en musique. Il est 7h37 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Tout autre chose, désolé, hein, je vais sortir un peu de cette ambiance sympa de la fin du journal de 7h30. Le couvre-feu, confinement, nouvelles restrictions. On attend la conférence de presse de Jean Castex et de ses ministres ce soir. La gestion de l'épidémie, la gestion des mesures sanitaires, les difficultés dans lesquelles sont plongées les entreprises. On va en parler avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Mais tout de suite, on va se projeter. Après une année au rythme du Covid, comment repenser nos habitats, les logements, les quartiers, les villes? Depuis le premier confinement, un homme s'est attelé à ce chantier, le géographe Michel Lussault, qui plaide pour un urbanisme de l'attention, du prendre soin. Le tête à tête Europe Matin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h40. Vous avez sans doute eu des envies d'ailleurs ces derniers mois. Logement trop petit, ville confinée, commerce, bar, restaurant fermé. Mon invité a profité du confinement pour réfléchir à nos habitats, de la chambre où vous télétravaillez à l'agglomération urbaine. En direct avec nous, le géographe Michel Lussault, auteur de chroniques de Géoviral aux éditions 205.
Le tête-à-tête, Mathieu Béliard.
Bonjour Michel Lussault.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Lyon, directeur de l'École urbaine de Lyon. On va parler de nos villes, de nos habitats pendant quelques minutes. Pour commencer, vous questionnez depuis le premier confinement le cadre urbain. Dans la ville, déjà, le virus se propage plus vite.
Oui, bien sûr. La pandémie est dotée d'une géographie qui est une géographie très particulière. Et cette géographie, c'est la géographie des grandes villes du monde. La pandémie naît dans une grande mégapole en Chine, puis elle se diffuse à partir de cette mégapole en raison même de la connexion entre cette mégapole et toutes les autres mégapoles et métropoles mondiales. Donc si l'on regarde bien ce qui se passe dans les premières semaines, eh bien c'est la géographie urbaine du monde contemporain qui est dessinée par la diffusion du virus.
Et c'est le géographe que vous êtes qui a été interpellé par cette situation internationale. C'est ce que je parlais de chroniques de Géoviral, votre livre, c'est un recueil de chroniques que vous avez diffusé en ligne depuis chez vous pendant le confinement. Vous vous êtes mis à parler de géographie aux Français. Parce qu'on se rend compte, avec cette problématique des villes, que sous restriction sanitaire, comme on va peut-être en connaître de nouvelles ce soir, eh bien on perd l'avantage de la vie en ville.
Bien sûr, et deux choses m'ont frappé. D'abord, la vulnérabilité de nos villes, la fragilité de notre vie urbaine. Qui aurait pu penser en décembre 2019 que nous allions en quelques semaines nous retrouver tous à l'arrêt, voir les activités économiques que nous pensions les plus solides qui soient, eh bien finalement, elles aussi être mises à l'arrêt, les aéroports fermés, les centres commerciaux fermés. Qui aurait pensé à cette vulnérabilité? Et puis la deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit que dans une ville, quand il n'y a plus de bars, de restaurants, de théâtre, de musée, d'espace pour se divertir, d'université ouverte, quand les écoles sont contraintes, quand nous sommes assignés à résidence, eh bien finalement la qualité de vie urbaine s'en ressent beaucoup. Et là aussi, ça nous fait mesurer en quelque sorte la fragilité de ce que j'appelle l'urbanité, c'est-à-dire la qualité de vie propre à une ville. Une ville, finalement, c'est un endroit dont on jouit parce que l'on est capable de rencontrer des autres et d'avoir de nombreuses activités à portée de main. Eh bien, tout ça a été, en quelques semaines, encore une fois, mis en question. Et c'est cela qui m'a fait réfléchir.
Alors, certains ont eu des envies de campagne. On parle souvent des néo-ruraux. Mais la réalité, quand on regarde les chiffres, hein, c'est que la dynamique reste en faveur de la ville. Donc, ce que vous dites, Michel Lussault, c'est qu'il va falloir s'habituer et adapter notre cadre urbain à ce qu'on pourrait connaître dans un futur plus ou moins proche, de nouvelles pandémies, de nouvelles mesures restrictives de ce genre.
Oui, il est probable que de nouvelles pandémies nous concernent. Ça, tous les scientifiques le savent, notamment parce que nous avons tellement bouleversé les écosystèmes que l'on sait que ce que l'on appelle les zoonoses, vous savez, dont on parle beaucoup, c'est-à-dire ces virus qui partent du monde animal et qui se transfèrent au monde humain, sont probablement appelés à être plus fréquentes. Et puis, deuxièmement, la pandémie nous révèle que, eh bien, organiser le télétravail, vivre assigné à résidence dans des logements trop petits, dans des villes mal conçues, en fait pour la qualité de vie au quotidien, eh bien c'est très difficile. Et nous mesurons sans doute à quel point depuis une trentaine d'années, le développement urbain est plutôt subordonné à des impératifs strictement économique, et ça peut se comprendre parce que les villes sont des plateformes économiques d'une incroyable puissance, c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous en passer d'ailleurs, mais que la qualité de vie moyenne s'est plutôt dégradée. Par exemple, nous ne savons pas assez qu'en France, cinquième puissance mondiale, eh bien la taille moyenne des logements construits a beaucoup diminué depuis 25 ans, pour des raisons d'impératifs économiques, pour des raisons de rentabilité économique. Donc aujourd'hui, les quatre pièces sont moins grands que ceux des années 60-70. Et tout va bien lorsqu'on est capable de sortir, d'aller dehors, d'aller sur une terrasse, d'aller flâner à l'extérieur. Mais quand on est assigné à résidence, eh bien on s'aperçoit que le logement est trop petit et on s'aperçoit aussi que son quartier est souvent dénué de ce qui permet la vie confortable au quotidien. Eh bien c'est à partir de là aussi que je me suis dit qu'il fallait peut-être développer un nouvel urbanisme.
Alors je voudrais vous faire écouter une voix, je vais la traduire en direct, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Il dévoile, là-bas en Arabie Saoudite, un nouveau projet de ville. Aujourd'hui, je vous présente The Line, une ville qui peut accueillir 1 million d'habitants, 170 km de long, une ville qui préservera 95% des zones naturelles, avec zéro voiture, zéro route, zéro émission de CO2. Ce projet est une révolution civilisationnelle pour l'homme et place l'être humain au centre des priorités. Voilà ce que dit Mohamed Ben Salman, cette ville qu'il faut imaginer, donc en longueur, 170 km de long, avec tout à proximité et sans voiture. C'est ainsi que vous voulez qu'on repense le quartier ?
Alors je ne sais pas s'il faut aller vers ça. Il y a d'ailleurs un peu un paradoxe de voir que le prince héritier de l'Arabie Saoudite, qui est un des pays qui a promu une économie fondée sur l'extraction du pétrole, donc de l'énergie fossile, et développé des villes qui sont d'ailleurs très peu environnementales et très peu écologiques, promeuvent une telle révolution, qui d'ailleurs renvoie à une vieille idée du début du XXe siècle, où un certain nombre d'urbanistes ont proposé ce qu'on appelait l'urbanisation linéaire. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est qu'on prend conscience que le modèle urbain que nous avons choisi depuis 30 ans n'est pas soutenable et qu'il nous expose, nous, à des faiblesses, à des fragilités et qu'il n'est pas confortable surtout. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Quand on fait des enquêtes dans le monde, on s'aperçoit que beaucoup de gens, sauf les plus riches, évidemment, qui eux ont les moyens en quelque sorte de rendre leur vie confortable, beaucoup de gens se plaignent de l'inconfort urbain. Eh bien, le nouveau confort urbain auquel j'appelle que nous réfléchissions, c'est un confort qui d'abord s'appuie sur l'idée qu'il faut redonner au logement de l'espace, de la qualité de logement, redonner au quartier aussi de la qualité. Et de ce point de vue-là, il y a également beaucoup d'idées qui sont travaillées, par exemple la ville du quart d'heure de Carlos Moreno, mais aussi aux États-Unis.
Pouvez-vous vous arrêter un instant, c'est quoi la ville du quart d'heure, simplement pour nos auditeurs?
Eh bien, la ville du quart d'heure, c'est une des idées qui circulent, si je puis dire aujourd'hui, qui consiste à affirmer que la ville la plus confortable, c'est celle où, en un quart d'heure à partir de chez soi, de préférence à pied, on peut trouver le maximum de services, de commerce, d'espaces de rencontre, de proximité. Et si l'on regarde bien dans les grandes métropoles comme Paris, Lyon, Marseille, par exemple, en France, eh bien, on s'aperçoit que, évidemment, dans le 7e arrondissement de Paris, on peut trouver cette ville du quart d'heure, mais dès que vous vous éloignez des zones les plus centrales et dès que vous allez en particulier dans les zones périurbaines, on s'aperçoit qu'on est souvent démuni de services, démuni d'espaces de rencontre, qu'on est très dépendant de l'automobile, qu'on est très dépendant finalement de grandes structures commerciales. Et même le prince d'Arabie Saoudite le dit dans sa ville linéaire de Line, finalement tout est à proximité. Eh bien je crois que le confinement nous remet devant cette nécessité de développer une ville de la proximité.
Merci Michel Lussault.
Merci à vous.
Alors je vais juste révéler une chose à nos auditeurs, simplement quand on a votre recueil de chroniques de Géoviral aux éditions 205 en main, on voit que les dessins sont signés de Lou Herrmann, et j'ai pas trouvé de dessin dans le livre, c'est la couverture qui se déplie en fait, et là on retrouve une carte qui résume vos chroniques, c'est une carte tout simplement de la géographie du virus, parce que c'est aussi une question pour le géographe que vous êtes, que cette pandémie que nous traversons. Merci beaucoup Michel Lussault.
Merci à vous.
D'avoir pris quelques minutes pour expliquer la ville de demain, les enjeux de cette ville de demain à nos auditeurs ce matin. Chronique de Géoviral aux éditions 205. Michel Lussault, qui est professeur à l'École normale supérieure de Lyon et directeur de l'École urbaine de Lyon. 7h48. Vous restez bien sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. C'est dans une toute petite minute.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1, l'édito politique avec Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le gouvernement a publié hier la première édition de son baromètre de l'action publique, c'est ainsi que ça s'appelle. Une série de données chiffrées pour montrer aux Français que les réformes avancent.
Oui, mais pas n'importe quelle réforme. Il suffit de se rendre sur le site gouvernement.fr pour le comprendre. Ce baromètre est celui des mesures qui vous changent la vie, de celles qui améliorent votre quotidien, est-il fièrement inscrit en tête de la homepage. Voilà, toute l'ambition de ce nouveau site est là. Montrer que le travail réalisé par le gouvernement depuis 3 ans change les petites et les grandes choses de la vraie vie. Montrer que gouverner, ce n'est pas seulement manier des concepts ou promettre des actions à 10 ans, mais que c'est concrètement faciliter l'existence de chacun.
Et justement, concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce baromètre ?
Alors, 8 grands chapitres, 25 indicateurs sur l'emploi, l'économie, la sécurité, la transition écologique, la famille, la santé, j'en passe. Chacun pourra bien sûr compulser ces données et les comparer dans le temps, puisque ce baromètre sera constamment mis à jour. Mais chacun pourrait aussi les comparer avec ses voisins.
Oui, parce que ce baromètre donne les informations département par département.
Exactement. Facile donc de comparer le taux d'équipement en fibre optique entre l'Eure et le Calvados, ou bien le nombre de contrats d'apprentissage entre la Haute-Loire et le Cantal. Ce baromètre, c'est l'expression la plus aboutie depuis 3 ans d'une des idées fixes d'Emmanuel Macron, le benchmark, c'est-à-dire la comparaison systématique des pratiques ou des résultats pour identifier et adapter les meilleures façons de faire. Le benchmark, c'est un mot compliqué pour dire ce que fait en permanence une entreprise privée, par exemple. Elle se compare à ses concurrents, aux standards du métier, aux champions étrangers, et elle cherche à améliorer son efficacité. Alors évidemment, du côté de la puissance publique, c'est un réflexe assez nouveau. Le benchmark n'est pas vraiment rentré dans les habitudes. Mais Internet, les données, les data, comme on dit maintenant, ont déjà commencé à bouleverser ce conservatisme. Regardez ce qui se passe avec les vaccins. La crise provoquée par le retard de vaccination de la France n'aurait pas existé si on n'avait pas pu comparer en temps réel notre performance avec celle de nos voisins qui avaient reçu exactement les mêmes doses, exactement au même moment que nous.
Bon, ce baromètre, c'est une sorte de quoi ? De stimulant pour faire avancer les réformes ?
Exactement.
Mais j'imagine qu'il doit aussi y avoir un objectif politique.
Ah, bien sûr. C'est d'abord le moyen d'inciter les Français à s'intéresser à autre chose que la crise sanitaire, à leur montrer que, malgré tout, grâce au gouvernement, bien sûr, leur vie change. Et puis, c'est un outil qui servira à construire le bilan d'Emmanuel Macron pour la présidentielle, une démarche toute politique donc, et qui, à la différence des données brutes que l'on trouvera dans le baromètre, sera certainement débattu et contesté.
Et votre journal, je le précise, L'Opinion publie justement aujourd'hui un contre-baromètre, on peut l'appeler ainsi, avec des datas, des données, qui n'ont pas été retenues, celles-là, par le gouvernement. Votre édito, c'est tous les matins sur Europe 1, juste avant 8h. Merci Nicolas Bétou. 7h54, tous les jours, c'est Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Et Gérard Collomb souhaitait lui dire un mot.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, bravo pour l'autopromo du journal de Monsieur Bétou. Hein, glissé en loose-dé comme ça.
Oui, on n'est pas du.
Bonjour Monsieur Bétou.
On était à Lyon juste avant, Monsieur Collomb.
C'est vrai, c'est quelque part une promotion de notre belle ville. Bonjour également à Elisabeth Borne qui doit m'entendre dans sa voiture de fonction. Elisabeth, que je connais bien, nous avons travaillé ensemble dans le gouvernement. Je sais qu'elle vient vous parler, entre autres, de son plan « Un jeune, une solution ». Eh bien, je crois que c'est opportun parce que, vous savez, nous, les jeunes, Monsieur Béliard, nous sommes les grands oubliés de cette crise, surtout lorsqu'on n'a pas d'emploi. C'est super dur pour nous. Vous n'imaginez pas les jeunes chômeurs, pour nous, de trouver du taf en ce moment, c'est une vraie galère. Moi, par exemple, je voudrais travailler dans un bar à cocktail. Comme Tom Cruise, vous savez, dans le film du même nom que tel. Eh bien, impossible en ce moment. Donc, je le dis, aide-nous, Elisabeth Borne. Parce que ce n'est pas parce qu'on a 22, 23 ou 24, 24 ans qu'on n'est pas digne de considération. Allez, salut à votre jeune et belle équipe.
C'est Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale tous les jours. Aujourd'hui, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, à 8h15. Merci Nicolas et à tout à l'heure, 8h45, pour la revue de presque. Il est 7h56. Il est 7h59 sur Europe 1. Je ne sais pas comment fait Laurent Cabrol pour vous donner la météo aujourd'hui, parce que j'ai regardé une carte de France, c'est gribouillé de partout, Laurent.
Ah, exactement. Il me gratte la tête, à force de me la gratter, j'aurai plus de cheveux bientôt. Alors écoutez, franchement, la pluie, d'abord, on va dire que la pluie va être dominante aujourd'hui. Hein. Bourgogne, Normandie, région parisienne, Val-de-Loire, les plaines du Massif central, le Poitou-Charente, le centre sont des régions où il pleuvra fréquemment. Des régions où ça va s'arranger, la Bretagne, le Cotentin, la Loire-Atlantique, l'Ariège, région ou département, avec des éclaircies à Lyon. Donc tout ceci en amélioration. Bassin méditerranéen, bon, on n'en parle pas, du soleil et du vent, c'est comme d'habitude. Aggravation cet après-midi sur la Gironde et le Pays Basque, il y a une perturbation qui arrive par l'Atlantique. Que dire encore ? Que le secteur à haut risque, c'est la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, le Nord, les Ardennes, pour neige et verglas, soyez très vigilants, surtout si vous êtes en voiture ou en camion, parce qu'on pense aux routiers. Et puis, une dernière question, une dernière réponse, les températures, entre 10 et 14 degrés, elles sont douces, mais elles ne resteront pas ainsi.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
L'idée que Carrefour puisse être racheté par un concurrent étranger, a priori, je ne suis pas favorable à cette opération.
Bruno Le Maire veut bloquer le mariage entre deux géants de la distribution, pourtant complémentaires dans leur modèle et leurs implantations. Mais l'État français a-t-il le pouvoir de refuser les projets de groupes privés dont il n'est pas actionnaire ? Réponse dans une seconde. Alors, est-ce que small is beautiful ? Rester modeste, c'est pas si mal. Le groupe Renault laisse tomber la course à qui vendra le plus de voitures et se concentre sur la rentabilité, avec au passage la touche nostalgique des 4L, des R5 électriques, bientôt en concession. Ce virage stratégique, c'est le dossier d'Europe 1. Dans ce journal, l'impossible traque du variant britannique du virus. Les laboratoires sont débordés. Et puis Donald Trump aura fait l'histoire, c'est confirmé. Premier président des États-Unis à subir deux fois une mise en accusation, le fameux impeachment.
On attend Jean Castex à 19h. Ce matin, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, dans ce studio à 8h15. La gestion de la pandémie, les nouvelles restrictions que l'on attend, les entreprises en difficulté aussi et le monde du travail qui doit s'adapter. L'interview de Sonia Mabrouk juste après ce journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On découvrait hier l'existence même de ce groupe canadien baptisé Couche-Tard. 15 000 magasins, 22 milliards d'euros de capitalisation boursière. Et ses projets de rapprochement avec Carrefour, notre Carrefour, pionnier français du concept d'hypermarché.
Couche-Tard proposait un mariage à 16 milliards d'euros. Mais sur France 5, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a fermé le banc.
Carrefour, c'est un chaînon essentiel dans la sécurité alimentaire des Français, dans la souveraineté alimentaire à laquelle je suis viscéralement attaché comme ministre de l'économie et comme ancien ministre de l'agriculture. Et j'ai vu pendant la crise de la Covid, le premier confinement, à quel point la sécurité d'approvisionnement, c'est vital pour nous tous. Le jour où vous allez chez Carrefour ou chez Auchan ou chez Leclerc et qu'il n'y a plus de riz, qu'il n'y a plus de biens essentiels, vous faites comment ? Donc ce qui est en jeu, c'est la souveraineté alimentaire des Français. Donc de ce point de vue-là, l'idée que Carrefour puisse être racheté par un concurrent étranger, a priori, je ne suis pas favorable à cette opération.
Et pour décoder ce que dit le ministre, nous sommes avec le chef du service économie d'Europe 1.
Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour.
L'État n'est pas au capital de Carrefour. Il peut quand même s'opposer à cette fusion ?
Oui, hein, et très facilement, la sécurité alimentaire des Français est jugée stratégique. On vient d'entendre ensemble l'argument de Bruno Le Maire. Et parce qu'elle est jugée stratégique, elle a été ajoutée l'an dernier à la liste des secteurs pour lesquels la France peut dire non à des investissements étrangers. Donc Bercy a un vrai outil de blocage. Et je peux vous dire que si l'opération devait avancer, le ministère de l'économie compte bien s'en servir. Couche-Tard, selon ce décret, ne pourrait pas détenir plus de 25% de Carrefour, ce qui rend l'opération beaucoup moins intéressante. À Bercy, où l'on a appris l'information par la presse hier matin, on estime que Carrefour a tous les moyens pour se développer seul et on est prêt, dit-on, à accompagner l'entreprise pour continuer à se transformer.
Merci Emmanuel Duteil.
Je vous renvoie vers l'éclairage éco de Nicolas Barré, c'était à 7h15. Carrefour, est-ce que c'est une entreprise stratégique ou non ? Ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, rappelait Nicolas Barré. Attention, attention, ce choix à double tranchant, le risque de renvoyer l'image d'un pays fermé, nous disait Nicolas.
Alors, pas de révolution, donc, a priori, chez Carrefour. Carrefour. En revanche, vous connaissez la Renault Clio, la Renault Espace. On va découvrir aujourd'hui la Renault Lution. Ce n'est pas un nouveau modèle, c'est la promesse du nouveau patron du constructeur avec donc des annonces renolutionnaires, paraît-il. Bon, ça c'est pour le marketing. L'info, c'est que le nouveau directeur général Luca De Meo présente son plan stratégique après deux longues années de difficultés internes, baisse des ventes, affaire Carlos Ghosn et crise sanitaire.
Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour à tous.
Vous êtes le spécialiste transport d'Europe 1. Quel sera le message ce matin?
Alors cette révolution de Renault, elle peut d'abord se résumer en une formule, vendre moins mais vendre mieux. Luca De Meo va officiellement acter la fin de la course au volume. Peu importe si Renault, avec Nissan, ne se bat plus pour être le numéro 1 mondial. Il va plutôt lorgner vers le modèle impulsé par Carlos Tavares chez PSA, c'est-à-dire la rentabilité avant tout. Et cela veut aussi dire proposer une offre nouvelle, explique Arnaud Aimé, spécialiste automobile au cabinet Sia Partners.
Aujourd'hui, Renault est reconnu surtout sur les petits modèles, ce qu'on appelle le segment B, des Clio, des Twingo, qui se vendent très bien en France et en Europe, mais qui ne sont pas les modèles les plus rentables. Donc il y a une idée de monter en gamme, de monter sur le segment des Mégane. Et puis il y a aussi l'idée de vendre pas seulement des voitures, mais aussi du service. C'est-à-dire que tout au long de la vie du véhicule, on va chercher à vendre des abonnements, des prestations. Et ça, c'est permis notamment par les véhicules connectés.
Et cette diversification des ressources, eh bien, ce sera un axe majeur de la nouvelle stratégie de Renault. Cela doit représenter à terme près de 30% du chiffre d'affaires.
Alors, ce nouvel élan pour Renault, il est donc incarné par cet Italien, Luca De Meo. Que va-t-il annoncer aujourd'hui?
D'abord, une stratégie claire, marque par marque, pour réduire les coûts, proposer des gammes de véhicules plus complémentaires. Renault, de l'électrique et une montée en gamme. Dacia, des voitures bon marché et modernisées. Et puis Alpine, pour la touche sport, plaisir. Luca De Meo, c'est un grand pro du marketing. Il a réussi la relance de la Fiat 500 en jouant sur la nostalgie, le côté rétro, des valeurs sûres. Cela passe par exemple, vous allez écouter, par cette musique. Ça, c'est la version 2021 du tube de Robert Palmer qui accompagne les pubs Renault depuis 1984. Et puis surtout, il va relancer des modèles iconiques. Vous allez découvrir ce matin le retour de la R5 et de la 4L en version 100% électrique. Alors on parle pour l'instant de concept car, on est plus là pour faire rêver, travailler sur l'imaginaire de la marque.
On en voit encore des 4L et des R5, on va pouvoir les comparer, les modèles d'antan si j'ose dire, et les modèles électriques aujourd'hui, la R5 en électrique, pourquoi pas cela dit.
Alors Aurélien, il y a eu un plan d'économie chez Renault de plus de 2 milliards d'euros, 4600 postes supprimés en France. Est-ce que Luca De Meo a pu apaiser ce climat social?
C'est vrai qu'il a eu la chance, si on peut dire, d'arriver après l'annonce du plan. Il est donc plutôt vu comme celui qui va relancer la machine, et ce qui rassure les salariés, c'est son parcours chez Fiat au sein du groupe Volkswagen, sa connaissance du secteur. Il pue l'automobile, me disait un représentant du personnel. Mais tout n'est pas réglé pour autant. Les syndicats attendent des précisions sur l'avenir des usines. C'est donc dans un contexte très incertain lié à la crise sanitaire que Luca De Meo devra vite faire ses preuves.
Le dossier d'Europe 1, je réfléchissais à ce que c'est que l'odeur de l'automobile. Parce que ça aussi, ça a évolué avec le temps. Ça sent plus l'embrouillage et le masque.
C'est plus électrique.
L'embrouillage, c'est un lapsus intéressant. Je regardais la Renault-Lution. Ça, c'est pas la meilleure invention. C'est dur à.
C'est la manière dont il présente ce plan, effectivement, de manière officielle ce matin.
Faut penser international. Renault-Lution. Merci Aurélien Fleureau du service économie de la rédaction.
Nous voilà au matin d'une nouvelle conférence de presse. On ne les compte plus. Ce soir, 18h, Jean Castex et 6 de ses ministres. Ceux des points sensibles du moment. Éducation, enseignement supérieur, culture et bien sûr santé, travail, économie. On le disait dans le journal de 7h, on s'attend à un couvre-feu dès 18h partout en France, car même si les contaminations n'ont pas encore explosé, on sait que le variant anglais, nettement plus contagieux, représente déjà 1000 cas sur le sol français.
Bonjour Victor Delande.
Bonjour.
Le décompte est de plus en plus difficile à tenir. Des nouveaux cas et des clusters émergent un peu partout.
Oui, prenons simplement un exemple. Sur 826 tests PCR positifs réalisés jeudi et vendredi dernier par un groupe de laboratoires d'Île-de-France, 74 cas suspects du variant anglais ont été retrouvés. Et chaque coup de fil passé à un laboratoire nous fait découvrir des nouveaux cas, et ce, dans presque toutes les régions. Autre élément qui prouve bien que le décompte est de plus en plus difficile à tenir, il existe plusieurs clusters sur lesquels le ministère de la Santé n'a pas encore communiqué. De nouveaux foyers de contamination, par exemple, ont été identifiés dans le sud, à Fréjus et à Biote. 6 cas confirmés au variant anglais hier matin, alors que les tests PCR suspects avaient été envoyés pour séquençage. Vous savez, cette méthode qui permet de valider qu'on est bien en présence de la souche anglaise le 27 décembre dernier. Le résultat est donc tombé 17 jours plus tard, ce qui veut dire que pendant plus de deux semaines, ces personnes revenant d'Angleterre se savaient positives au coronavirus tout en ignorant qu'elles avaient contracté le variant anglais. Et comme ce virus est beaucoup plus contagieux, ces six malades ont donc potentiellement contaminé plus leur entourage.
Victor Dolande, spécialiste santé d'Europe 1. Et si vous avez plus de 75 ans, c'est aujourd'hui que démarrent les prises de rendez-vous sur les plateformes. Vous avez le choix Doctolib, Maya et Keldoc pour la vaccination.
Deuxième information importante ce matin, les laboratoires qui font ce séquençage. Victor Dolande, ils sont complètement sous l'eau.
Oui, tout à fait. Les centres nationaux de référence ainsi que les plateformes locales, les seuls pour le moment habilités à séquencer pour valider qu'il s'agit bien d'un cas positif au variant anglais, sont totalement débordés. Selon nos informations, des laboratoires privés pourraient séquencer eux-mêmes les tests PCR dans les prochains jours pour traquer plus vite les cas de variant anglais et éteindre ainsi plus efficacement les chaînes de contamination.
Merci beaucoup Victor Dolande.
Vous restez bien avec nous dans un tout petit instant, c'est historique. Donald Trump mis en accusation pour la deuxième fois de son mandat. Même des élus républicains ont voté contre lui. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h11. La suite du journal, François Geffrier.
C'était une figure clé de l'UDF, puis du Modem et la cheville ouvrière des batailles électorales de François Bayrou. Marielle de Sarnaise a été emportée hier soir par une leucémie à 69 ans. Emmanuel Macron confie qu'il perd une amie. Des hommages de toute la classe politique, de Jean-Pierre Raffarin jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Aux États-Unis, de CNN à Fox News, tous les médias américains ont choisi le même titre. Impeached again. Donald Trump, de nouveau mis en accusation. Ça n'était arrivé à aucun président avant lui.
Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 à New York. Donald Trump est donc renvoyé en procès devant le Sénat par les élus de la Chambre des représentants.
Oui, 232 élus, la totalité des démocrates et 10 républicains, ont voté en faveur de cet impeachment dans un congrès totalement bouclé par la garde nationale. Les démocrates ont dénoncé parfois avec émotion le comportement du président. Personne n'est au-dessus des lois, c'est un danger évident et immédiat pour la nation, d'après la chef de la majorité, Nancy Pelosi. Des critiques sont également sorties des rangs républicains. Le leader de l'opposition, Kevin McCarthy, a estimé que Donald Trump avait sa part de responsabilité dans l'attaque de la semaine dernière, mais qu'un impeachment serait une grave erreur qui attiserait la division. Et donc le président peut encore compter sur une solide base. 197 élus républicains n'ont pas voté cette mise en accusation.
Et alors Alexis, dans la soirée, Donald Trump a publié une vidéo.
Oui, sans un mot sur ce second impeachment, mais avec un message d'unité.
Aucun de mes vrais partisans ne peut approuver la violence politique. Aujourd'hui, j'appelle tous les Américains à surmonter les passions du moment et à s'unir.
Mais Donald Trump va bien connaître un second procès au Sénat. La date reste inconnue. On sait simplement qu'il ne se tiendra pas avant le 20 janvier et l'investiture de Joe Biden, avec en jeu pour ce procès l'interdiction pour le président de briguer un futur mandat.
Alexis Guilleux en ligne des États-Unis pour Europe 1. Puis, confidence étonnante au passage. Jack Dorsey, le patron de Twitter, assume d'avoir supprimé le compte de Donald Trump, même si pour lui c'est un précédent dangereux, un échec de notre part, dit-il, à promouvoir une conversation saine.
François Geffrier, c'était le journal de 8h. Merci beaucoup François. 8h13, on retrouve Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Tant que durera la crise, les dispositifs d'aide et de chômage partiel seront prolongés, promet le gouvernement. Alors jusqu'à quand? Comment financer? Qui va financer? N'est-il pas temps aussi de se poser toutes ces questions? Notre invité, la ministre du Travail, Elisabeth Borne. À tout de suite.
Il est 8h13.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion.
Bienvenue à vous et bonjour Elisabeth Borne. Carrefour, fleuron français, premier employeur privé du pays face à une perspective de rachat par une chaîne canadienne. Est-ce que la ministre du Travail que vous êtes s'inquiète d'éventuelles conséquences sur l'emploi?
Écoutez, moi je pense que c'est important que Carrefour soit préservé dans sa stratégie. Il joue un rôle de très important dans notre sécurité alimentaire. Comme vous l'avez dit, c'est le premier employeur français. Moi, j'étais chez eux lundi parce qu'ils s'engagent pour l'emploi des jeunes. Vous voyez, ils vont embaucher cette année 15 000 jeunes. Donc, que la stratégie de Carrefour ne soit pas remise en cause par un nouvel actionnaire, ça me semble effectivement très important.
Mais vous iriez jusqu'à dire qu'il en va de notre sécurité alimentaire, que c'est même une question de souveraineté dans ce domaine-là?
Mais je pense que la stratégie de Carrefour, qui est de faire travailler les producteurs locaux, les agriculteurs locaux, c'est effectivement quelque chose dont on a pu voir que c'était important dans la crise sanitaire, d'avoir des chaînes d'approvisionnement sécurisées. Ça aussi, c'est très important.
Donc, vous y êtes opposé, hein ?
Ben moi, je suis favorable à ce qui n'y ait pas effectivement de remise en cause de l'actionnariat actuel de Carrefour et qu'il puisse poursuivre sa stratégie.
Donc opposé à cette perspective
donc,
de rachat.
Donc opposé à un rachat.
Clairement. Madame la ministre du Travail, quelles sont les perspectives plus largement sur le marché du travail ? La Banque de France parle d'un taux de chômage qui pourrait remonter à 11% pour ce premier semestre 2021.
Écoutez, moi ce que je peux dire, c'est que jusqu'à présent, les conséquences de la crise sur l'emploi ont pu être relativement contenues grâce à toutes les mesures d'urgence qu'on a mises en place. Vous vous souvenez qu'au premier confinement, on avait eu une augmentation très forte du chômage, avec plus d'un million de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucune activité supplémentaire, surtout parce qu'il y avait eu une disparition des contrats courts, des missions d'intérim. Parce que dans le même temps, l'activité partielle avait permis de protéger 9 millions de salariés. L'activité était à l'arrêt pour beaucoup d'entreprises. Et ils avaient pu garder leurs salariés parce que l'État avait pris en charge la rémunération de près de 9 millions
et
de
là,
Français.
Et là, cet amortisseur va se poursuivre, évidemment.
Cet amortisseur, il va se poursuivre. Donc, vous avez vu qu'avec le rebond de notre économie cet été, on a pu réduire cette hausse du chômage. On avait 300 000 demandeurs d'emploi supplémentaires à l'automne. Moi, ce qui m'importe aussi, c'est la situation pour les jeunes.
On va en parler.
Vous savez que dans ces crises,
bien
en
sûr.
Général, ils en sont les premières victimes.
Mais précisément, juste sur la prise en charge de l'activité partielle dans les secteurs en grande souffrance, vous la prolongez jusqu'au 1er mars. En réalité, il n'y a plus de date. C'est tant que durera la crise.
Alors, c'est très clair. Moi, je veux vraiment que les entreprises soient rassurées, en particulier celles qui sont fermées, qui ont des contraintes liées à la situation sanitaire. Pour toutes les entreprises fermées, totalement ou partiellement, on prendra en charge à 100% l'activité partielle tant que la crise durera.
Peut-être jusqu'à septembre. Hein. Hier, j'entendais le président du conseil scientifique qui dit peut-être jusqu'à septembre pour voir la sortie du tunnel. Donc, vous n'avez pas de date butoir.
Sur les activités qui sont pénalisées par la crise, qui sont fermées totalement, partiellement ou qui n'arrivent pas à redémarrer, qui ne sont pas forcément fermés comme l'hôtellerie et l'événementiel, on les protégera le temps qu'il faudra.
D'ailleurs, probablement que ce soir, Madame la Ministre, pour éviter justement des cascades de faillites pour ces cafés, restaurants et l'événementiel, vous allez augmenter les aides du Fonds de solidarité. Parle du relèvement du plafond, de la couverture de frais fixes.
Le Premier ministre annoncera les mesures ce soir. En tout cas, moi, je peux vous assurer que sur l'activité partielle, c'est un dispositif qui a été très efficace pour protéger des millions d'emplois et il faut le maintenir pour les secteurs qui sont en difficulté, tout le temps que ce sera nécessaire.
Les jeunes en grande souffrance, psychologique, économique évidemment. Et est-ce que vous nous confirmez ce matin que chaque jeune éloigné de l'emploi pourra bénéficier, Madame la Ministre, d'un accompagnement vers l'emploi et d'une rémunération de 500 euros par mois ?
Alors, d'une part, on s'est vraiment mobilisé dans le plan Un jeune, une solution qu'on a présenté dès juillet. D'abord, pour limiter la hausse du chômage des jeunes. Et vous savez que les primes qu'on a mis en place ont très bien fonctionné, puisqu'on a eu plus d'un million d'embauches de jeunes de moins de 26 ans en CDD de plus de 3 mois ou en CDI entre le mois d'août et le mois de novembre.
Ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de TPE et de PME qui se plaignent de n'avoir rien reçu. C'est très dommageable pour leur situation financière. C'est peut-être le revers du succès.
Alors,
de la
moi,
prime
je
à l'embauche.
Je ne veux pas que les entreprises croient qu'on ne verse pas les aides. Elles sont versées. Il fallait accélérer, c'est ce qu'on est en train de faire. On a reçu effectivement, notamment sur l'apprentissage, beaucoup de dossiers dans un temps très court. 350 000 qui avaient été reçus à la fin de l'année. On en a payé un tiers. Et moi, je prends l'engagement que tous les dossiers soient réglés avant le 5 février. J'attire l'attention des chefs d'entreprise sur le fait qu'il faut qu'ils nous mettent leur relevé d'identité bancaire. Vous savez,
oui,
on a eu 60 000 dossiers où il n'y avait pas de relevé d'identité bancaire.
Avec
Donc on va
dossier.
Faire vraiment, d'ici le 5 février, dès lors qu'on nous donne un relevé d'identité bancaire, on réglera tous les dossiers.
J'attire votre attention, Elisabeth Borne, sur la situation d'un apprenti dont le patron, qui est boulanger à Besançon, est en grève de la faim depuis 10 jours. Il proteste contre l'expulsion de son employé guinéen. Cet apprenti, Madame la Ministre, il a été pris en charge en tant que mineur isolé. Et maintenant, il va être expulsé. Un patron qui met quand même en danger sa vie pour son apprenti, il faut réagir. Il faut agir.
Moi, je comprends l'émotion que suscite cette situation. La règle, c'est effectivement que normalement, quand un mineur est accueilli en France, il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, il doit recevoir une formation comme tout le monde. Quand ça s'est bien passé, au bout de 2 ans, il peut continuer à travailler. Là, on a un cas particulier. On a des doutes sur les déclarations que le jeune a pu faire. Donc, il y a une procédure judiciaire. Moi, je ne vais pas me prononcer dessus.
Mais enfin, il y a une situation humaine également. Quand vous voyez un employeur qui s'investit ainsi pour son employé, je suppose qu'au-delà des règles, évidemment, qui s'imposent, il y a aussi une prise en compte de ces situations.
Voilà, il y a une procédure judiciaire. Moi, je suis vraiment aussi bien sensible, évidemment, à l'émotion que ça suscite. Et je vous dis, ça ne doit pas se passer comme ça. Normalement, quand un jeune mineur arrive en France, qui fait une formation, que ça se passe bien, alors il peut continuer à travailler en France.
Alors, le gouvernement, Elisabeth Borne, s'est réuni hier, évidemment, vous également, en séminaire, pour évoquer les éventuelles réformes à venir. Est-ce que vous êtes d'accord avec le ministre de l'Économie qui estime que la réforme des retraites est prioritaire pour rembourser la dette du Covid ?
Écoutez, moi, je pense que notre pays a besoin d'une réforme des retraites, mais la priorité absolue, c'est de surmonter la crise. Et donc aujourd'hui, ce dont on discute avec les partenaires sociaux, et on a besoin d'un dialogue social apaisé, c'est de tous les outils qui vont nous permettre de surmonter la crise. On a parlé de l'activité partielle,
oui, bien sûr.
L'activité partielle de longue durée.
C'était pas ma question, hein, Elisabeth Borne.
On invente des dispositifs. Moi, je dis qu'aujourd'hui, la priorité, c'est bien celle-là.
D'accord, mais est-ce que cette réforme de retraite peut être une solution, l'une des pistes pour rembourser la dette du Covid ?
La réforme des retraites qui a été portée par le président de la République dans sa campagne, c'est une réforme qui doit permettre d'avoir plus de justice, plus de lisibilité. Et donc c'est sur cet objectif que, le cas échéant, en fonction de la situation économique, sociale, sanitaire, je pourrais reprendre des discussions avec les partenaires sociaux. C'est une réforme qui doit se faire dans la concertation.
Mais je note que vous n'allez pas sur cet aspect budgétaire et financier comme le ministre de l'Économie. Écoutez quand même l'avertissement de Laurent Berger, il y a quelques semaines, à notre micro, le leader de la CFDT.
Si, comme c'était plutôt l'orientation prise par M. le maire, c'est une question de réforme financière des retraites, la réponse est non pour la CFDT, clairement non.
Donc aucun projet de réforme de retraite sur la table.
Oui, d'ici la présidentielle, soyons clairs, il n'y a pas de possibilité, sauf à vouloir une explosion sociale.
Une explosion sociale ? Vous êtes prêt à prendre ce risque ?
Moi, je dis qu'on a besoin de mener toutes les réformes qu'on est en train de mener pour protéger l'emploi des Français, pour surmonter la crise. On a une réforme de l'assurance chômage.
On va en parler.
Moi, je souhaite qu'on aille au bout de cette réforme.
Mais un risque d'explosion sociale, vous dit quand même un leader syndical qui est plutôt dans le dialogue et la construction.
Enfin, vraiment, moi, ma philosophie, c'est que les bonnes réformes, elles se mènent avec les partenaires sociaux dans le dialogue social. C'est ce qu'on a fait pour surmonter la crise. C'est ce que je veux faire sur la réforme de l'assurance chômage. Il faut qu'on aille au bout de cette réforme.
Elle est indispensable, celle-ci aussi ?
Écoutez, la réforme de l'assurance chômage, elle est très importante parce qu'elle doit permettre de lutter contre la précarité en dissuadant le recours à des contrats courts, le recours abusif à des contrats courts. C'est le système de bonus-malus que l'on veut mettre en place. Et puis, c'est aussi une réforme pour plus d'équité dans le calcul de l'allocation chômage. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous travaillez à mi-temps tous les jours ou à temps plein un jour sur deux, à la fin, vous avez travaillé le même nombre d'heures, ben vous n'avez pas du tout la même allocation chômage.
Oui, j'ai compris, mais je suis étonnée. Vous dites plus d'équité, Madame la Ministre. Pourtant, en novembre, le Conseil d'État a déclaré que le nouveau mode de calcul de l'indemnisation pouvait porter atteinte au principe même d'égalité entre allocataires.
Ben c'est pour ça qu'on a une concertation avec les partenaires sociaux pour regarder comment on porte cet objectif. Moi, je vous dis pourquoi les allocations ne sont pas du tout les mêmes quand vous avez travaillé le même nombre d'heures. Mais on tiendra naturellement compte des observations du Conseil d'État, la concertation, la prise en compte des observations du Conseil d'État pour arriver à aboutir sur cette réforme de l'assurance chômage.
Allez-vous tenir compte des observations du Conseil d'analyse économique, qui, je le rappelle à nos auditeurs, est un think tank rattaché à Matignon qui vient de publier une note pour le moins explosive proposant d'institutionnaliser la reprise en main du régime par l'État et donc, en bref, de faire fi des partenaires sociaux.
Écoutez, c'est un groupe d'experts qui a effectivement présenté une analyse. Moi, je suis convaincue que les partenaires sociaux ont un rôle très important
donc, c'est
à
pas
jouer
un ballon
dans l'assurance
cette proposition.
Chômage. C'est un avis qui n'engage qu'eux.
Quand même, ils disent qu'il faut moduler les indemnités en fonction de la croissance, de la situation économique. C'est-à-dire qu'on module, en gros, la générosité de l'assurance chômage en fonction de la conjoncture. Ce n'est pas rien.
Ah, écoutez, je pense que ça, c'est ça peut être une bonne idée, dont il faut qu'on discute avec les partenaires sociaux, d'avoir des règles plus protectrices quand la situation du marché du travail est plus difficile. Mmh. Ça, sur ce point-là, je pense que c'est quelque chose dont on peut débattre avec les partenaires sociaux.
Est-ce que ces deux réformes, à la fois retraite et assurance chômage, seront menées avant la fin du quinquennat ?
Je vous dis, la réforme de l'assurance chômage, on a eu beaucoup de concertations avec les organisations patronales et syndicales, et moi je souhaite reprendre les discussions avant la fin du mois. S'agissant de la réforme des retraites, je pense que notre pays a besoin d'une réforme des retraites, mais elle doit se faire dans un dialogue social et on verra quelle est la situation
avant la fin
économique, sociale, sanitaire dans les prochains mois.
Donc peut-être à l'avant. Vous n'excluez pas que ce soit fait avant la fin du quinquennat ?
Ben, je pense que si le contexte le permet, moi ma volonté c'est de pouvoir reprendre des discussions quand le contexte le permettra, avec les partenaires sociaux.
Eh bien, on verra tout cela. En tous les cas, peut-être la reprise de ces réformes. Merci, Elisabeth Borne, d'avoir été notre invitée ce matin. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci, Sonia Mabrouk. Il est 8h27.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1. Un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani, la météo, Laurent Cabrol. Dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
En quoi nos vies vont-elles changer après les nouvelles décisions gouvernementales ? C'est la grande question du jeudi. À 18h, prise de parole de Jean Castex, entouré de 6 ministres, Adrien Beck nous dévoile les mesures envisagées.
Le gouvernement redoutait une tempête après les fêtes. Elle s'éloigne, au moins momentanément. L'accélération des contaminations n'a pas eu lieu, constate un conseiller. Une solution d'entre deux, un couvre-feu national à 18h, est donc l'hypothèse la plus probable. On évoque aussi des annonces concernant les cantines scolaires, lieux à risque de contamination. En fait, l'exécutif essaie d'adopter des mesures préventives, tant la situation peut basculer rapidement. Le plateau reste très élevé, aussi l'incertitude quant aux différents variants. Voilà pourquoi on évoque également des mesures de limitation des flux avec la Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud. Exercice d'équilibriste, d'autant que revient la crainte d'une moindre acceptation des mesures, alors que la situation semble stable. Stabilité bien précaire, devrait mettre en garde Jean Castex ce soir. La dernière fois qu'un couvre-feu a été mis en place à grande échelle, à l'automne, il n'avait duré que 7 jours, avant d'être remplacé par un confinement.
Pour les cantines, l'idée serait de distribuer des pique-niques dans les classes. Des restrictions de voyage pourraient aussi être décidées dans les pays où le variant anglais est très présent. L'OMS se réunit d'ailleurs en urgence aujourd'hui pour évoquer les nouveaux variants anglais, mais aussi sud-africains et brésiliens. Avant la conférence de presse de ce soir, Jean Castex est attendu ce matin à Metz pour une visite sur le thème de la vaccination. Dès aujourd'hui, les 5 millions de plus de 75 ans peuvent s'inscrire pour se faire vacciner à partir de lundi. Elle était le bras droit historique de François Bayrou. Marielle de Sarnez est morte hier soir des suites d'une leucémie. L'ancienne ministre des Affaires européennes et députée centriste avait 69 ans. Hommage de Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI. Il avait commencé sa carrière politique sous la tutelle de Marielle de Sarnez.
Je savais qu'elle était malade et c'est de la tristesse. Je pense à tout ce qu'elle m'a appris, à la fois de force, de courage, de lucidité, d'analyse politique. Elle a été une grande militante européenne, une grande parlementaire européenne, très respectée. C'était une femme politique courageuse, forte, mais dure aussi, et qui a énormément compté dans le parcours politique de François Bayrou.
Jean-Christophe Lagarde, joint par Théo Manval, François Bayrou rend hommage à une femme si talentueuse et courageuse. L'affaire du siècle arrive devant la justice. Il y a 2 ans, la pétition en ligne avait recueilli plus de 2 millions de signatures pour défendre le climat. L'objectif est de faire reconnaître la responsabilité de l'État pour son manque d'action contre le réchauffement. 2 morts cette nuit à bord d'une voiture volée dans l'Essonne. Les 2 hommes tentaient d'échapper aux gendarmes. Leur véhicule a heurté un camion. Ils ont été tués sur le coup. Et puis, personne n'est au-dessus de la loi, pas même le président. Déclaration de Nancy Pelosi qui dirige la Chambre des représentants. Les députés américains se sont prononcés pour un second procès en destitution de Donald Trump et parmi eux, 10 républicains.
Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal à 8h30 et nous retrouvons Laurent Cabrol à présent pour la météo.
Et la tendance est en train de bouger maintenant. Ça y est, je vous disais depuis ce matin que les flocons ne franchissaient pas la frontière et passaient du côté allemand belgo-luxembourgo, la Belgique et le Luxembourg, et qu'ils n'avaient pas pénétré. Mais maintenant, ça y est, ils sont là. On les voit à Longeville, à Sarre. Strasbourg, à Charleville, à Jeumont, à Rombas, à Colmar. Ils sont présents, ils entrent en France et ils vont donc concerner la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, le Nord, les Ardennes, avec de la neige, avec du verglas, et ce pendant toute la journée, car vraiment ces flocons et cette poussée neigeuse va vraiment s'incruster maintenant. Alors ailleurs c'est de la pluie, en Bourgogne, en Haute-Normandie, région parisienne, Val-de-Loire, Poitou-Charentes et Centre. Amélioration cet après-midi sur la Bretagne, le Cotentin, la Loire-Atlantique, puisque la perturbation qui arrive par l'Atlantique sera passée dans ces contrées et donc les aura dégagées. Nous aurons par ailleurs en Gironde et au Pays Basque cette fameuse perturbation qui va provoquer une aggravation, c'est-à-dire l'arrivée de la pluie, et dans les régions comme la région lyonnaise, eh bien les éclaircies l'emporteront avec des températures générales de 8 à 12 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. 8h34 sur Europe 1. Est-ce que vous écrivez encore à la main, au crayon, au stylo, je veux dire? C'est bon pour la santé, c'est bon pour votre cerveau. C'est ce que va nous expliquer Jimmy Mohamed dans un instant.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h36 sur Europe 1, notre santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Nous allons parler ce matin des bienfaits sur notre cerveau et pour les apprentissages de la prise de notes. Je veux dire, à l'ancienne, hein, avec un papier, un stylo.
Exactement. Alors c'est vrai que les tablettes, les PC portables et ordinateurs ont pris une place importante dans nos vies, mais aussi pendant la période d'éducation des enfants pour des raisons pratiques. Je sais pas vous Mathieu, mais moi à titre personnel, j'ai toujours eu besoin de prendre des notes à la main avec un papier et un stylo, en ayant le sentiment de mieux apprendre, de mieux comprendre. Et bien d'après certaines études, quasiment la plupart, l'écriture à la main serait plus stimulante pour le cerveau par rapport à l'utilisation d'un clavier d'ordinateur.
Et c'est donc scientifiquement prouvé ?
Oui, bah alors déjà, dans le passé, plusieurs études avaient montré que l'ordinateur avait tendance à nous distraire, même lorsque nous nous en servons pour prendre des notes. On aurait du mal à faire plusieurs choses à la fois. Et puis on a fait une étude plutôt intéressante chez des étudiants. On leur a mis des électrodes au niveau du cerveau, au niveau de leur crâne, pour enregistrer leur activité cérébrale. Et on leur a demandé d'écrire une série de mots, tantôt à la main, tantôt sur un clavier d'ordinateur. Et bien ceux qui ont écrit à la main avaient une meilleure capacité à enregistrer de nouvelles informations. L'explication viendrait du fait que l'écriture, avec les mouvements délicats et finement contrôlés, contribue à activer dans le cerveau les circuits de l'apprentissage. D'autres études ont aussi montré que les étudiants qui prennent des notes à la main avaient de meilleurs résultats dans certains domaines, notamment dans le domaine conceptuel, c'est-à-dire lorsqu'il faut avoir une réponse construite, une réponse créée, plutôt que de recracher simplement un cours dont on a pu se rappeler. Alors, évidemment, on ne va pas diaboliser tous ces outils qui sont des aides, mais néanmoins, ça veut dire que pour l'apprentissage, on a besoin malgré tout de revenir un peu à des méthodes anciennes. Et donc, c'est pour ça qu'à titre personnel, je continue d'utiliser un papier et un stylo. Et je vous incite tous à faire ça aussi, notamment chez vos enfants. Mais peut-être que comme ça, ils apprendront mieux leur poésie, ils arriveront à être un peu plus doués en mathématiques. Donc voilà, un papier et un stylo, c'est peut-être ça le secret de la réussite.
Et quand vous parlez de l'écriture et que vous parlez de mouvements délicats, je me dis qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui disent que pour un médecin, ils se moquent un petit peu de nous. Hein. Je ne sais pas si on a progressé à ce niveau-là. Vous ne m'avez jamais adressé d'ordonnance, Jimmy, mais l'écriture des médecins, j'aurais pas dit mouvement délicat. Voilà,
c'est pour cacher. Alors la vérité, Mathieu, c'est pour cacher nos fautes d'orthographe.
Ah, c'est
quand
ça.
Quand je gribouille quelque chose, on ne voit pas mes petites erreurs et donc ça passe mieux.
Et les pharmaciens, eux, le savent en revanche et ils vous dénoncent derrière. Merci Jimmy Mohamed. On vous retrouve à 15h sans rendez-vous, l'émission Santé avec Mélanie Gomez. Il est 8h39 et Fanny Agostini est avec nous, notre planète sur Europe 1. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Fanny, ce matin, vous nous présentez une technique inédite qui permet de compter chacun des arbres sur Terre.
Oui, inventorier les arbres un par un sur toute la surface du globe, c'est désormais possible grâce aux images satellites qui atteignent un niveau de précision sans précédent. Une équipe internationale de chercheurs a scanné une surface de 2,5 fois la superficie de la France, en limite du Sahara et du Sahel, et a ainsi recensé plus de 1,8 milliard d'arbres, soit un peu plus d'un arbre par hectare. Et la grande surprise, c'est que la bordure saharienne abrite finalement plus d'arbres qu'on ne le pensait. Des arbres qui jouent un rôle crucial pour limiter l'avancée du désert et servent de zone refuge autant pour les humains que pour les animaux, mais aussi retiennent l'humidité et donc permettent le maintien des activités agricoles.
Alors ok pour la prouesse technologique, maintenant ça sert à quoi ? Enfin quel est l'intérêt de compter les arbres depuis l'espace ?
Alors, l'idée est d'avoir un regard sur l'évolution des grandes zones climatiques sur la planète. Car quand il y a des arbres, il y a forcément plus d'humidité. Donc forcément des activités, comme je vous ai dit précédemment, des activités agricoles notamment. Mmh. Donc en plus d'un recensement précis, cette étude permet de détecter la présence d'arbres hors zone forestière. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire des arbres éparpillés un peu partout sur le terrain. Ce qui, sur le temps long, permet de comprendre donc l'évolution du changement climatique et des efforts mis en œuvre pour lutter contre la désertification. Il sera même bientôt possible, tenez-vous bien, de cartographier l'emplacement et la taille exacte de tous les arbres sur Terre. Et puis, le deuxième intérêt de compter les arbres depuis l'espace, c'est de combler le manque d'informations dans certaines zones du monde. Cette technique est aussi une opportunité formidable pour pallier les pénuries de données dans les régions où celles-ci sont rares, et notamment dans les pays où il y a des restrictions imposées par les gouvernements.
Et alors, ce qui est surprenant, c'est que les satellites nous disent qu'il y a aujourd'hui plus d'arbres sur la planète qu'il y a 20 ans.
Et oui,
c'est contre-intuitif.
C'est contre-intuitif. Ah nous avons gagné effectivement 2 millions de kilomètres carrés de forêts supplémentaires ces 20 dernières années. Ce qui veut dire que malgré les incendies qui ravagent une partie des grands massifs forestiers de la planète, il y aurait de nouvelles forêts sur Terre. Notamment en Chine, c'est là où poussent les trois quarts de ces forêts sur ordre du pays. L'armée chinoise a planté des millions d'arbres pour créer une ceinture végétale afin de stopper l'avancée du désert de Gobi. Mais le problème, c'est que ce sont des arbres de la même espèce. Une monoculture d'arbres qui vient freiner l'épanouissement d'une biodiversité riche et en plus qui n'est pas spécialement efficace pour stocker du carbone. Observer les arbres depuis l'espace, c'est bien, ça donne une bonne idée de la superficie végétalisée de notre planète, mais on ne peut pas encore pour l'instant faire des études d'impact et juger de la qualité de ces forêts.
Merci Fanny Agostini, notre planète, tous les matins sur Europe 1. 8h42, ils arrivent, Nicolas Canteloup, Julie d'ailleurs qui s'est déjà installée, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est l'arrivée de presque de Nicolas Canteloup. Mathieu rit déjà. Eh ben on va vous retrouver tout de suite, tiens Mathieu Béliard.
Oui, cher Julie, c'est normal. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre avec ce matin l'inquiétude qui monte, on va pas se mentir, sur le front de l'épidémie autour du variant anglais. Le variant anglais qui a contaminé, il faut bien le dire, avec...
Taillot
voilà les trompes de chasse
qui devaient arriver avant moi. Je les attendais, trompes de chasse. Qu'est-ce que vous foutez les chasseurs? Bonjour à Saint-Denis.
C'est Philippe de Villiers ça hein.
Oui, il m'a reconnu. C'est moi, mon train de retard. C'est moi, femelle. Taillot Bouton, oui, les variants anglois hors de France. Sus au virus anglois. Hardi, mes amis, montez sur vos chevaux, vos poneys, brandissez vos seringues et allez piquer le yonf de ces vilains contaminés d'outre-manche.
Oula.
Y a pas de oula, ils nous ont déjà brûlé Jeanne Lapucelle, ils n'auront pas Morissette la vieille. Taillot, Sada.
Ça secoue dès le matin, des trompes de chasse. Si vous étiez un peu somnolent devant votre café, ben là c'est bon, vous êtes réveillé. Allez, l'autre info, c'est Jean Castex.
Jean Castex.
Ça lui irait bien, il faut bien le dire.
J'aurais pu la faire en vrai.
Qui a salué le comportement des Français pendant les fêtes.
Exactement, monsieur Béliard. Moi, j'arrive à l'heure. Monsieur Béliard, les Français, il faut bien le dire, se sont bien comportés pendant les fêtes. Les chiffres de l'épidémie l'indiquent. Ils ont bien mis papier mamie à la cuisine avec un vieux bout de bûche. Bravo aux Françaises et aux Françaises. Alors, pour les récompenser, je leur offre un couvre-feu à 18h.
Voilà. Oh, c'est sympa.
Oui, non, initialement, je voulais faire un couvre-feu à 17h, mais je veux récompenser les Français en le mettant à 18h. C'est-à-dire qu'au lieu de flinguer les commerçants, on va seulement les ruiner. Voilà. Et c'est grâce à vous, les Français. Bravo.
Merci à vous tous. Va-t-il y avoir un couvre-feu généralisé à 18h? Bah justement. Emmanuel Macron, bonjour.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je ne peux rien vous dire ce matin. Vous aurez la surprise en écoutant la conférence de Jean Castex tout à l'heure.
Bien sûr, mais oui, à 18h.
Mais oui, soyez patients. Non, parce que c'est parce que déjà, on va pas se mentir, c'est chiant quand il parle. Si en plus, je lui grille le seul truc intéressant de son discours, c'est pas bon.
Vous êtes dur avec lui quand même. Hein.
Non, bon. Soyons honnêtes, ma chère Julie, le discours, on pourrait le remplacer par un replay de celui de la semaine dernière. Hein, y a juste la fin à changer, mais sinon ça change pas grand chose.
Alors, vous avez fustigé les critiques contre la stratégie vaccinale. Hein, vous avez dit, ça prend plus de temps qu'un tweet.
Mais oui, je n'en peux plus de ces critiques contre ma stratégie. L'autre jour, pas plus tard que dimanche dernier, je lisais le JDD, le bien nommé. Il y avait un article sur un type qui était en colère parce que ça allait trop lentement. En colère, hein, mais il se croit tout permis. Voilà, sous prétexte d'être observateur, c'était qui je ne sais plus.
C'était qui
Je pourrais emprunter vos journaux, là ouais. Mais c'était moi. Ouais. Oui,
Et ben voilà. Bonne journée, monsieur
le
président.
Oui, mais j'ai changé. Il y en a un autre qui disait ça. J'ai changé.
Le Canard enchaîné révèle que Cécilia Attias, l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy, aurait été rémunérée environ 3 000 euros par mois par l'Assemblée nationale pour un travail d'assistante parlementaire auprès de celle qui a succédé à Nicolas Sarkozy, la députée Joëlle Sekeldireno. Problème, le journal n'a pas retrouvé la moindre trace de travail effectué. Et voilà.
Pujadas.
Et voilà.
J'aime ma femme. Oui, ça vous rappelle quelqu'un.
Ah bah
j'aime
oui,
ma
oui,
femme.
Oui.
Oui, mais ma femme, excusez-moi, mais c'est Carla Bruni. Voilà.
Oui, bon, on sait.
Mais vous savez, je vais être honnête avec vous. J'étais au courant de cette affaire concernant Cécilia.
Hein?
Pourquoi vous croyez qu'on s'est séparés? Parce que mais oui, monsieur Béliard, parce que je ne pouvais pas supporter d'avoir quelqu'un de malhonnête dans mon couple.
Ah, oui.
D'autant plus qu'il y avait qu'elle. Dans mon
monsieur,
entourage.
Oui, c'est ça. Monsieur Sarkozy, assistante parlementaire de la députée qui vous succède. Bah, ça s'est fait avec votre accord, cet emploi fictif.
Mais quelle indignité, Mme Pujadas. Mais si les féministes vous entendaient.
Bah, quel rapport?
Mais une femme, Mme Julie, vous êtes bien placée pour ça, quoi. Elle fait quoi qu'elle veut.
Oh, bah, c'est ça, oui.
Elle peut trouver un emploi fictif toute seule, elle n'a pas besoin d'autorisation de son mari, franchement. Tenez, Carla, elle a bien compris le système. Elle ne me demande rien pour son emploi fictif de chanteuse. Hein? Mais si, excusez-moi, mais elle fait des chansons fictives. Personne ne les entend. On est tous d'accord là-dessus. Vous avez déjà entendu une parole de Carla? Non. Donc voilà, une femme, c'est autonome. Voilà. Oui, mais relisez vos classiques. Relisez Simone Veil, Mme Julie.
Hein,
ou Gisèle Habibi.
Franchement, non, allez,
si elle vous entendait.
Halimi, s'il vous plaît. Hein. Oh, bah, je crois qu'on va en rester là. Ce Sarkozy, ça ira pour aujourd'hui. Éric Dupond-Moretti est avec nous maintenant. Le ministre de la Justice est la cible d'une enquête pour prise illégale d'intérêt. Bonjour, maître.
Madame, mon client, Éric Dupond-Moretti, est innocent. Madame, qu'est-ce qu'on lui reproche?
On vous reproche d'avoir diligenté une enquête administrative auprès de l'Inspection Générale de la Justice, alors que vous étiez déjà ministre. Et cette enquête concerne 3 magistrats qui ont enquêté sur vous. Vous n'êtes pas vraiment censé faire ça, quoi.
Mais écoutez, madame, monsieur, je vous prends un témoin. En tant que ministre de la Justice, il est normal, nécessaire, que je m'assure que la justice, cette même justice, fonctionne correctement. C'est pourquoi, oui, j'ai diligenté cette enquête, cette procédure injuste, infâme, contre Éric Dupond-Moretti. Celle-ci n'était-elle pas abusive? Ces 3 magistrats avaient-ils le droit d'enquêter sur Éric Dupond-Moretti? Mais où habitent ces 3 saligots? Est-ce que ces 3 connards se droguent ou vont aux putes? À quelle école vont leurs enfants? Non mais je m'excuse, il est important que la justice fasse son travail pour que justice soit faite.
Eh bien, ça vous a mis en colère, hein, en tout cas, ces trois magistrats enquêtent sur vous. Ils avaient d'ailleurs déjà épluché vos factures téléphoniques dans le cadre de l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy.
Non mais, c'est bon, ça va, c'est bon, ça commence à bien suffiser, là. Est-ce qu'il pourrait y avoir une affaire, s'il vous plaît, en France, où mon nom n'est pas cité? C'est fou, ça, j'ai l'impression d'être François Berléand.
François Berléand, mais pourquoi? Quel rapport?
Non, parce que François Berléand, à une époque, dans tous les films, il y avait François Berléand au générique. Mais moi, c'est pareil dans les génériques des procès.
Avec le générique des procès, vous êtes
voilà.
Partout. Merci, M. Sarkozy. Mais c'est bon pour aujourd'hui, hein, vous ne revenez plus. Hein. On va.
Au chambre, je fais qu'est-ce que je veux.
On revient sur cette déclaration de Ségolène Royal. Elle a affirmé qu'on devrait commencer par vacciner les jeunes au détriment des personnes âgées ou fragiles. Un avis surprenant quand même. Hein. Bonjour, Mme Royal.
Oui. Bonjour, Mme Béliard. Priorité aux jeunes. Non, bonjour, M. Béliard. Bonjour, docteur Billy Mahomet. Avis surprenant, dites-vous, avis surprenant de Ségolène Royal. Mais c'est quoi ce ton, Mme Julie? Je ne vous permets pas.
C'est ma grande idée, voilà, vacciner les jeunes de façon préventive. Parce que c'est l'avenir, la médecine préventive. Comme la démocratie participative, j'invente la médecine préventive.
Vous en avez d'autres, des idées de ce genre,
c'est Ségolène Royal? Oui, mais bien sûr, les fauteuils roulants.
Et alors
mais arrêtons de les gaspiller avec des handicapés. On les réserve aux valides.
Quoi?
Ça leur évite de se froisser un muscle ou d'abîmer leur genou.
Mais enfin, c'est n'importe
Il y a des
quoi.
Vrais problèmes de genoux dans les valides. Je sais de quoi je parle. Je marche, mais ça croque.
C'est n'importe quoi, arrêtez.
Mais pas du tout. L'euthanasie. Tiens, parlons, puisque vous ne me lancez pas sur ce sujet, je vous. Voilà, l'euthanasie. On devrait la réserver, l'euthanasie. On dit en euthanasie ou une euthanasie? Oui, on devrait la réserver, l'euthanasie, en priorité à ceux qui n'ont aucune maladie. Mais me regardez pas comme ça, monsieur Béliard, comme ça, ça leur évite une vie de souffrance.
Oui.
Mais si vous faites une euthanasie, si vous la pratiquez suffisamment tôt, il n'y a pas de risque de col du fémur pété à 65 ans, je prends un témoin, monsieur Mahomet. Pas de cataracte, pas d'incontinence fécale à 80 balais.
Oh là là.
Suivez mon regard. Voilà, à partir de 50 ans, euthanasie préventive, on s'évite des soucis.
Mais vous délirez complètement, en fait.
Mais pas du tout. Les préservatifs, c'est pareil, uniquement pour les gens qui n'ont aucune relation sexuelle.
Ah bah d'accord.
Et finalement, ma dernière grande idée, interdiction d'utiliser les urgences si on est malade ou blessé. On serait pas autant débordé dans les hôpitaux s'il n'y avait pas tous ces malades partout. Non, mais vous avez des solutions intelligentes, qu'il y en a tellement. Je vous en donnais, croyez-moi, d'ici 2022, plein.
Ça promet. Merci Ségolène Royal.
Oui.
Allez, on va terminer avec un petit mot de sport. Le Real Madrid de Zinedine Zidane semblait aller mieux et puis il a à nouveau fait match nul. Nelson Monfort, vous êtes à Madrid, bonjour.
Ouais.
Oula.
Oui, ma chère Julie, vous m'entendez?
Oui, ça, c'est bon.
Oui, je suis actuellement, vous l'entendez, à Madrid, toujours sur 15 cm de neige. Et oui, on se caille les noisettes. We are jellings, the knackney balls. Bref, je suis sur place. Je vous laisse traduire en espagnol. Je suis sur place pour assister à l'entraînement des joueurs du Real dans ce championnat de football sur glace. Et c'est à l'instant Karim, le grand Karim Benzema qui s'élance.
Le lac des Signes, ça, non?
Karim Benzema en juste corps blanc. Le long de la ligne de touche, il y va et il glisse. Oh, c'est formidable, c'est magnifique. Quelle grâce, quelle exquise délicatesse dans les mouvements de Karim, de ses jambes légèrement non épilées. Karim qui s'approche de la surface de réparation et reglisse à nouveau en tournant autour du poteau de corner. C'est magnifique, il s'accroche d'une main. Oh là là, regardez. Oh là, c'est très joli, triple boucle que piqué avec réception sur le cul, sur l'océan. Pardonnez-moi que, alors que de l'autre côté, Sergio Ramos tente un double axel en duo avec Raphaël Varane. Les deux corps s'entremêlent et tourbillonnent dans un ballet gracile de cuisses musclées avant de... Oh là 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 là, avant de... Non, une chute au point de pénalty. Oui, bon, voilà, c'est très très joli, vous l'avez compris, au niveau des glissades. Mais par contre, au niveau du foot, on y perd un peu, je dois vous l'avouer. Je ne vous le cache pas. On espère que ça va vite se réchauffer pour revenir très vite, on l'espère, à quelque chose de plus bourrin. Nous l'espérons à vous, Julie.
Nicolas Canteloup et Julie, c'était la revue de presse à retrouver sur europe1.fr. Et un coucou à Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les trois auteurs de Nicolas. 8h56, Philippe Bordel nous a rejoint en studio. Culture Média, la matinée continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Alors lui, il n'a pas d'auteur, il écrit tous ses textes lui-même. C'est l'ancien basketteur, désormais humoriste, le comte de Bouderbala. Il sera dans ce studio. Il a fait un spectacle qui a réuni près d'1 million de personnes, en salle, en vrai. Et là, il a rejoué, mais devant un public avec des masques. On verra ça. Notre info média du jour, on va parler des conséquences de la présidence Trump sur les médias américains. Qu'est-ce que le comportement du président sortant a changé dans le paysage médiatique? On en parle avec Alexis Pichard. Il est chercheur à l'Université Paris-Nanterre et auteur d'un livre, Trump et les médias. Puis au sommaire également, le tout nouveau président d'Arte Group, Bruno Patineau. Il nous en dira plus sur la rentrée 2021 du média qui a fait un carton en télévision. C'était la réussite télé de 2020, Arte. À la télé, dans les médias sociaux et sur leur plateforme.
La matinée continue avec Philippe Vandel, c'est Culture Média sur Europe 1. Je vous souhaite une belle journée. Je reviens demain matin en direct, bien sûr, dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.